Je pense que je suis mon pire ennemi. J'ai une tendance au sabordage parfois.
Les vrais gens sont pas dans un jeu télévisé. Ils prenaient la politique pour du showbiz.
Ah ouais, je suis peut-être un clown, mais au moins ça fait rêver les gens. Tu fais rêver qui, toi ?
Oh, moi, je sais qui je suis.
Ça, c'est très réconfortant dans ce métier, c'est qu'il y a souvent quelqu'un qui te correspond et il y a beaucoup de rencontres salvatrices. Ça passe vraiment beaucoup par les rencontres. Je crois pas au parcours solitaire, au soldat solitaire. Quand j'étais jeune, je connaissais personne dans ce métier, mais personne. Donc au début, je suis beaucoup allé au forcing, j'harcelais des standards d'agence artistique pour parler aux agents, pour les inviter au spectacle que je faisais au cours Florent. Je savais pas quoi faire, quoi. Même une fois, ils cherchaient ce qu'on appelle des doublures lumière pour la soirée des Césars. Pendant les répétitions, tu t'assois à la place des nommés, tu tiens un carton avec leur nom et la photo du nommé, et puis ils tirent un nom au hasard, et tu te lèves, tu vas chercher le César, et tu fais blablabla à la place du mec qui est vraiment nommé, et tu retournes t'asseoir. Donc le bon job bien frustrant. La veille de la première de Cyrano, j'avais vraiment énormément de travail. Et je me bloque le dos. Alors que ça faisait la soirée que je me disais, mais j'aimerais ne pas avoir à monter sur scène demain. D'un coup, mon cerveau me dit, ah non mais attends, demain je joue quoi, on me fait une piqûre à la cortisone, on fait ce qu'on veut, mais il est hors de question que je ne joue pas ce spectacle parce que j'ai le dos bloqué.
Tu fais pas comme un chanteur dévocalise
Si, j'ai quelques trucs, ouais.
Ça ressemble à quoi?
Mais non, je peux pas le faire, il me faut un piano. Apportez-moi le piano. Non, c'est vrai. En plus, je trouve ça ringardos, les acteurs que tu vois se chauffer. Mais même, tes trucs comme ça.
J'escarbouche, je coupe, je fente et la dent. À la fin de l'envoi, je touche.
Quand je sors du conservatoire, j'ai pas de travail pendant 2 ans.
Putain.
Je passe 2 ans d'audition.
Personne
ne te prend. Beat sur beat. Et ma seule perspective de boulot, c'est célibataire au Mélo d'Amélie. Une petite salle de 100 places. J'y vais un petit peu en traînant les pieds. Et on s'est tellement marré, les gens ont tellement ri. Et je me suis dit, putain, mais t'étais en train de devenir un gros snob de merde, en fait.
Si un jour vous deviez aller en prison, ce n'est pas vous, c'est Tapi, c'est le mythe. C'est le rêve. Love me.
Comment une série comme ça te change, toi, de jouer un personnage aussi fort que Bernard Tapi? Moi, Laurent, je suis vraiment content de faire ce podcast avec toi.
Merci beaucoup.
Je suis allé à la Comédie Française jeudi et je te disais justement, j'avais peur de m'ennuyer parce que je me suis dit, tiens, c'est une théâtre avec des vers en alexandrin. Je me suis dit, ça va être dur et franchement, j'ai adoré. C'était ouf et je te dis pas ça pour te faire plaisir.
Ça me fait plaisir quand même, hein. Je suis désolé. Mais...
Non, c'était dingue que ce soit la mise en scène. Je lisais sur internet que, tu me confirmes si c'est ça, t'as 50% des paroles, des tirades de la pièce sur 3 heures, c'est ça, à peu près?
Ah, par rapport à la taille du rôle?
Ouais, la taille du rôle.
Il y a à peu près 2000 vers dans Cyrano et le personnage de Cyrano en a, je crois, à peu près 1600.
Ouais, c'est énorme.
C'est un des plus gros rôles, voire le plus gros rôle du répertoire français. Ouais.
Et toi, quand t'es la veille de la première, t'es comment? Parce que
j'emmène pas large. Moi, j'ai une angoisse, c'est la mémoire. J'ai pas une très très bonne mémoire. J'ai peur de la mémoire, en fait. J'ai peur du trou. J'ai eu des petits traumatismes avec des trous de mémoire et qui me sont un peu restés comme un stress post-traumatique. Et j'ai souvent peur du trou. Et là, comme je sais qu'à partir du moment où je pose le pied sur le plateau, je suis parti pour 2h45 de texte quasiment non-stop.
Ouais, j'ai une longue tirade en plus.
Oui, et puis des tirades que beaucoup de gens connaissent, il y a vraiment des gros morceaux, c'est des tubes, quoi, Cyrano. Donc il y a cet enjeu un peu supplémentaire par rapport à d'autres spectacles. Donc là, c'est vrai que j'avais une angoisse particulière, même un peu irrationnelle, quoi. J'imaginais que je pouvais arriver sur le plateau et
puis, un blanc
énorme, m'effondrer complètement psychologiquement, mettre 10 ans à remonter sur un plateau. Enfin, j'avais vraiment des angoisses très, très, très disproportionnées, quoi.
Ça, tu l'as au moment où on te propose le rôle? Tu l'as dans les quelques jours ou semaines avant de la première? Tu l'as quand, en fait?
Non, il y a plusieurs stades d'angoisse. Quand on me propose le rôle, non, c'est un rôle tellement magnifique que je rêve de jouer depuis que je suis ado. Donc ça, je suis très, très, très heureux. Tout de suite, je dis oui sans réfléchir.
Cyrano, ouais. Spécialement?
Ouais, ouais, ouais. Je fonce bille en tête sans réfléchir.
D'ailleurs, pour contexte, tu me confirmes, je crois que c'est la pièce la plus jouée de l'histoire, c'est ça? Enfin, française.
Alors ça, je ne sais pas. Pas forcément, parce que je pense qu'il y a tout Molière, Racine, tout ça qui a été écrit avant, donc qui a forcément été joué davantage, okay. Je pense. C'est possible, hein, mais en tout cas, c'est sûrement la plus populaire, quoi. Donc au début, quand on me propose le rôle, il n'y a pas vraiment d'appréhension, il y a surtout de l'excitation. C'est après que les choses se compliquent. Parce qu'évidemment, je relis la pièce, je réalise vraiment l'énormité du personnage, de la taille du rôle. Et là, il y a des angoisses qui se mettent en place, mais qui se dissipent assez vite dès qu'on commence à répéter, parce que forcément, avec le travail, on rationalise tout et on avance petit à petit, et on se dit, bon, ça va être possible. Et après, il y a d'autres angoisses irrationnelles qui arrivent, qui sont celles du trac.
Là, c'est vraiment juste avant le
travail. Là, c'est venu un petit peu plus tôt que d'habitude, mais c'était costaud.
Quoi
bah là, j'ai commencé à vraiment traquer à partir du moment où on a fait les filages. Les filages, c'est une répétition, c'est une représentation sans public, en fait, mais en condition de représentation.
Et c'est combien de temps avant la première?
Alors, ça dépend des spectacles. Là, avant la première, on a fait 6 filages. On l'a joué 6 fois dans la salle vide avant de...
Mais du coup, c'est quoi? C'est une semaine avant? J'arrive pas à me
rendre compte. C'est juste avant. Ça précède la première. La semaine qui précède la première.
Tous les soirs, tu le fais?
Tous les jours, on le fait en entier, comme s'il y avait du public.
Sans pause?
Alors là, il y a un entracte d'un quart d'heure, donc on intégrait l'entracte quand même pour voir les timings des changements de décor, de changements de costume. Donc on fait comme si c'était une représentation, mais la salle est vide.
Le moment où tu disais que tu as eu une forme de post-traumatique, c'est très vieux ou c'est plutôt enfant-ado ou c'est ta carrière?
Non, il y en a plusieurs. J'ai eu plusieurs petits trous comme ça, parfois.
Au théâtre?
Au théâtre. Et comme tous les acteurs, j'ai horreur de ça. Il y en a qui gèrent le truc plus ou moins bien, qui glissent un peu dessus, qui font oh oui, bon, bah, j'ai eu un trou, j'enchaîne. Moi, ça me scie les jambes. Après, je suis en fragilité pendant tout le reste du spectacle. Le lendemain, je vois le moment où j'ai eu le trou la veille qui se rapproche, j'y repense.
Ah, c'est dur.
C'est hyper cérébral, quoi. Donc, mais après, il y a des acteurs qui gèrent ça différemment. Mais c'est vrai que c'est un peu comme la mémoire, c'est mon angoisse.
C'est quoi un des exemples, un des souvenirs qui a été les plus durs justement à côté trou de mémoire?
Il n'y a pas très longtemps c'est la story parce qu'en plus ça impliquait plus ma partenaire que moi. Il n'y a pas très longtemps, je jouais Don Juan pour la Comédie Française aussi. J'ai sauté une réplique, mais en sautant cette réplique, j'ai coupé
la sienne.
Je coupe un monologue sublime d'Elvire qui était joué par Jennifer Decker, qui est un grand monologue dans Don Juan qui est très beau. Et c'est irrattrapable, quoi. Et là, je suis désolé pour elle, quoi, parce que je la prive d'un morceau magnifique de son personnage. Alors là, c'est encore pire que si c'était un trou.
Et là, tu le vois dans son visage.
Bah oui, je vois qu'elle me regarde, genre.
Qu'est-ce que t'as foutu?
Mais oui, mais.
Il est où mon texte?
On en est où là? Attends. Donc elle enchaîne, hein. Évidemment, elle va pas revenir en arrière. Mais là, c'est. Ouais. C'est... Mais j'en ai eu plusieurs comme ça. Je suis pas un spécialiste du trou, mais quand il y en a un, ça me. C'est bizarre cette phrase. Mais quand il y en a un, ça me. Quand il y en a un, ça me marque, on va dire. La phrase continue à être bizarre, mais.
Et du coup, comment tu fais pour arriver justement avant Cyrano à minimiser les chances que ça arrive? C'est quoi tes techniques ou
J'essaie de me calmer, de rationaliser, de... C'est là où les filages aident, parce que je viens de le jouer six fois dans une salle, c'est pas parce que maintenant il y a 800 personnes dans la salle que je peux plus le faire, quoi. Donc j'essaie de rationaliser le truc.
Mais rationaliser, ça veut dire que par exemple, t'es dans les loges en train de te dire, je l'ai fait 6 fois,
oui.
Ça s'est bien passé, ça va bien se passer.
Ouais.
Ok. Il y a quelques jours, là, je sais pas si tu le connais, Niels Schneider.
Ouais.
Je faisais une interview avec lui et il me disait qu'à un moment donné, il voulait impressionner une réalisatrice et en fait, ça a donné une grosse bouse, il s'est complètement vautré et que depuis, il se dit, sois moyen. C'est-à-dire qu'en fait.
Ah bon?
Et que du coup, ça lui enlève l'enjeu, en fait. Que ça lui enlève le.
Ouais.
Et sois moyen, ça veut dire, pour lui, en gros, fais ce que t'as fait à la répétition ou seul quand tu t'entraînais. Toi, t'en penses quoi de voir les choses comme ça pour toi?
Je comprends ce qu'il veut dire. Je pense pas que son objectif ce soit d'être moyen, mais en tout cas, c'est une manière. On parle de rationaliser, c'est une manière de faire redescendre la tension, les enjeux.
Ouais, c'est ça.
Pour être bon plus que moyen, en fait.
Oui.
Mais c'est sûr qu'en tout cas, le travail d'acteur passe énormément par la décontraction. Le travail de beaucoup d'interprètes, hein, d'ailleurs.
Ouais, beaucoup de performances, finalement.
Oui, parce que les musiciens aussi, il faut qu'ils soient décontractés, même pour des sons très, très staccato. Il faut quand même qu'il y ait une souplesse, une décontraction. Et dans le jeu, même pour des scènes très dramatiques, il faut que l'acteur, que l'instrument acteur, ça fait phrase de prof de théâtre, soit détendu. Et c'est vrai que de baisser les enjeux, c'est une manière de se détendre et d'être meilleur, c'est sûr. Ouais.
Et toi, tu as des manières de faire pour arriver à baisser l'enjeu? Parce que tu pourrais très bien te dire, il y a 800 personnes, il y a des personnes qui peuvent... En parler sur internet, en parler sur un média. C'est quand même pas pareil que le filage. Comment tu baisses l'enjeu?
Moi, je fais ce métier quand même par plaisir. Donc, j'ai envie d'aller sur le plateau. Mais d'ailleurs, il y avait un truc marrant parce que la veille de la première de Cyrano, j'avais énormément de trac. J'arrivais pas à dormir. J'avais vraiment le trac comme je l'avais rarement eu, alors que j'ai quand même fait plus d'une trentaine de spectacles. Mais là, j'avais vraiment énormément de trac. J'étais très, très angoissé. Et évidemment, je somatise. Je me bloque le dos. Oh, j'ai le dos complètement bloqué. Je me lève comme ça. J'appelle le metteur en scène. J'ai le dos bloqué.
Sachant que pour contexte, il y a des scènes de café d'épée un peu.
Ah bah, il y a du combat d'épée. Et puis, il y a une entrée qui est un peu, spectaculaire aussi, un peu sportive. Enfin bref, il y a plein de trucs. C'est très physique comme spectacle. Et j'ai le dos bloqué, quoi. J'appelle l'ostéo en urgence, et tout. Je suis vraiment mal, quoi. Et d'un coup, alors que ça faisait la soirée que je me disais, mais j'aimerais disparaître, être avalé par la terre, disparaître, ne pas avoir à monter sur scène demain, j'aimerais vraiment que ça n'arrive pas, j'étais vraiment dans des angoisses horribles. Là, le fait d'avoir mal au dos, d'un coup, mon cerveau me dit, ah non, mais attends, demain, je joue, quoi. On me fait une piqûre à la cortisone, j'en ai rien, on fait ce qu'on veut, mais il est hors de question que je ne joue pas ce spectacle parce que j'ai le dos bloqué, quoi. Donc, ça m'a complètement inversé le rapport que j'avais à l'enjeu du lendemain.
Dans le sens, j'en ai envie.
Oui, mais non, mais en fait, j'ai hyper envie d'y aller, quoi. Mmh. Il est hors de question que cette soirée n'existe pas, quoi. Donc, bizarrement, ça m'a aidé. Puis, comme par hasard, avec l'aide de mon ostéo le lendemain, ça s'est débloqué. Non, mais on se met dans des états.
C'est dingue.
Dans ce métier, c'est, enfin, surtout au théâtre, pour moi en tout cas, qui sont complètement dingues. Franchement, c'est.
Ouais, parce que au cinéma, même si tu peux pas faire 36 000 prises, tu peux quand même en faire plusieurs.
Oui, oui, la difficulté, elle est ailleurs. Au théâtre, on a répété 2 mois. Donc, on a quand même une maîtrise des scènes, des enjeux. On a beaucoup parlé. Au cinéma, même si on a répété un peu en amont ou fait des lectures, l'enjeu, il se joue vraiment le jour où on fait la prise et le lendemain, on la refera pas, quoi. Donc, mais on peut la refaire. Donc, c'est pas le même stress. Ouais.
Toi, tu préfères quoi entre les deux? Si tu préfères quelque chose?
Ben non, j'arriverai pas à trancher. Je prends souvent l'image du chanteur qui fait du studio et de la scène. Ouais, tout le monde trouve ça normal.
Ouais.
Donc moi, c'est pareil en fait. J'aurais du mal à me passer l'un de l'autre. Et j'aime bien faire des allers-retours. Quand je fais du théâtre, le cinéma me manque. Je suis toujours content d'arrêter un spectacle et d'aller sur un plateau de cinéma et inversement aussi.
Et c'est quoi que t'aimes dans le théâtre? Tu disais justement, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est quoi qui te nourrit?
Ben déjà, le rapport au public. Okay. J'adore être sur scène.
Mais c'est les faire rire, c'est...
Alors j'adore ça. Ouais. La comédie, c'est ce que je préfère. Vraiment, c'est...
C'est quoi, tu sens que t'es en lien avec le public en
ligne? Bah ouais, il y a un truc magique. Tu dis un truc, les gens rient. franchement, c'est extraordinaire, quoi. C'est miraculeux. Moi, je me lasse pas de ça. Et puis, j'ai l'impression que tout devient cohérent. Leur présence, ma fonction, ce que j'ai à donner, ce que ça provoque. J'adore ça. Bon, là, on parlait de Cyrano, c'est pas vraiment une comédie, même s'il y a des moments un peu drôles, mais...
S'il y a des moments qui sont drôles dans le sens dramatique, enfin, je sais pas comment
oui,
dire...
Oui, non, mais oui, y a, oui, oui. C'est-à-dire que l'arnaque, elle est poussée tellement loin, parce que c'est quand même une histoire de manipulation totale, quoi. La pauvre Roxane, en fait. Roxane, elle est souvent... c'est juste un peu la figure féminine, romantique, qui est accentuée dans notre mise en scène, dans la mise en scène d'Emmanuel Domas, parce qu'il y a que des garçons sauf Roxane, justement, pour... amplifier la présence féminine. Et quand Roxane lui dit qu'il a connu aucune femme, qu'il a toujours eu peur des femmes, que sa mère l'a pas trouvé beau, qu'il a pas eu de sœur, et il dit cette phrase sublime, il dit grâce à vous une robe a passé dans ma vie, très belle phrase. Bah là, cette phrase elle résonne encore plus parce qu'on l'a vu dans un univers très masculin avec les soldats, les poètes, on l'a vu dans un univers masculin tout le temps. Bon, pardon, je digresse un peu sur la pièce, mais pourquoi on disait ça, je sais plus.
On était parti sur le stress.
Ah oui, oui
et
oui,
sur
oui.
Le fait. Oui, pour te demander ce que t'aimais dans le théâtre, ce qui te nourrissait.
Bah, c'est le rapport au public et puis la littérature. Parce qu'au cinéma, il y a des grands rôles, il y a des écritures très fines, précises, mais il y a.
C'est moins littéraire.
Ouais, c'est moins littéraire, quand même.
Et toi, si je remonte dans l'enfance, adolescence, t'es le mec charismatique, t'es à l'aise, t'es drôle, t'es introverti, t'es comment ?
Non, j'étais plutôt extraverti et ça passait beaucoup par la vanne. C'est vrai que ça a été un peu mon mode de communication et ma manière de repérer les gens qui pouvaient être compatibles.
je me dis, bon, tu vas lancer des vannes
et... Ça le fait marrer, il se vexe pas, on peut être potes et j'espère qu'il m'en fera aussi parce que l'idée c'était pas d'être un connard qui vanne tout le monde, quoi.
Et donc tu faisais des vannes plus en individuel, pas forcément dans la classe ?
Ah si, dans la classe, je faisais... J'adore être insolent avec les profs pour faire rire mes potes, quoi. Mais j'étais un peu petit con insolent, quoi. Alors, en même temps, j'ai ce souvenir-là d'un ado un peu pas arrogant, mais un peu mauvais esprit, quoi, un peu petit con. Et en même temps, pas du tout sûr de moi, quoi. Donc j'imagine que c'était une manière de compenser.
C'est dans le sens, tu projetais un personnage de mec confiant. Et,
oui,
et,
voilà, enfin... c'est ça, ouais. Mais bon, souvent, quand on est ado, on fait souvent le malin. Puis en fait, c'est une période tellement déstabilisante.
Non, c'est clair. Ouais. Et toi, t'as su à quel âge, à quel moment que t'avais envie de l'aller dans la comédie, on va dire cinéma, théâtre?
Je pense fin de l'enfance, vers 10, 11 ans, je dirais. Ouais, 10, 11, 12 ans, par fascination. Mes parents m'emmenaient pas au cinéma beaucoup. Donc je voyais les films à la télé et j'étais totalement fasciné. Et puis à l'époque, j'ai des anecdotes de vieux, c'est horrible. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Et le cinéma, le dimanche soir, c'était vraiment. C'était un rendez-vous, quoi. On se retrouvait dans le salon, il fallait éteindre la lumière, plus personne parlait et on regardait le film comme si on était au cinéma.
Il y a une forme de sacralisation.
Complètement, ouais. Essayait de recréer une ambiance de salle de cinéma dans l'appart, quoi. Et j'étais fasciné par les films que je voyais. Alors, c'était essentiellement des grands films populaires, les Belmondo de Funès, Gérard Oury, les De Broca, enfin, il y en avait plein, quoi, mais beaucoup de cinéma américain aussi. Et à partir de 12 ans, même 11 ans, j'ai falsifié ma carte d'identité, parce qu'à l'époque c'était facile, elles étaient en carton. Et parce que je voulais voir les films interdits, c'était au moins de 13 ans à l'époque.
Ok, bon, ça, t'as triché d'un an du coup.
J'ai triché d'un an, ouais, ça va. Franchement, je faisais plus que mon âge, ça passait. À partir du moment où j'avais un peu d'argent de poche et que je pouvais aller au cinéma tout seul, là j'y suis allé.
T'es allé au cinéma tout seul, donc c'est vraiment l'amour de cet art-là, quoi.
Ouais, je m'ennuyais un petit peu enfant, j'avais hâte d'être adulte, j'avais hâte d'être indépendant, j'avais hâte de conduire, de fumer, de...
D'être libre.
D'être libre, ouais. Je voyais vraiment l'âge adulte comme le début de la liberté, donc j'ai l'impression que de 11 à 18, j'ai patienté, en fait. Et j'étais dans une espèce comme ça d'énergie un peu insatiable et une impatience. Ouais. Une impatience d'être indépendant, qui est arrivée très 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 jeune en fait.
Et comment ça s'est... parce que le métier du cinéma spécialement, c'est un métier qui fait rêver plein de personnes. Et il y a peu de personnes qui arrivent à se démarquer, à sortir du lot et à en vivre. Toi, ça s'est passé comment pour arriver à en vivre, quoi?
Bah, c'était long. Enfin, long. En vivre, non. En vivre, j'ai eu de la chance parce que je suis devenu intermittent assez vite. J'ai commencé à tourner assez jeune. Moi, mon premier tournage, j'avais 15 ans. C'était pour un téléfilm pour France 3 avec Michael Lonsdal. Ça a été mon premier job et j'étais encore au collège. Et j'ai tellement aimé ça qu'après, j'étais obsédé par le cinéma, par les tournages. Et je n'avais qu'une envie, c'était de recommencer, quoi. Donc, tout ce qui n'était pas lié au cinéma ne m'intéressait plus du tout. J'ai fait une espèce de phobie scolaire, on appellerait ça maintenant.
Donc l'école ne t'intéresse plus?
L'école ne m'intéresse plus du tout.
Sortir avec des potes, pas non plus?
Pas tant que ça, non, pas tant
c'est
que ça.
C'est vraiment le cinéma, ça
devient... Ouais, franchement, c'était vraiment obsessionnel. Dans ma chambre, j'étais couvert de... J'avais des affiches partout, des fiches, les fiches cinéma des acteurs que je détachais. J'achetais Première, Studio, je commençais à lire des bouquins de cinéma.
Et à ce moment-là, ton rêve, c'est quoi?
Alors mon rêve, c'est d'être acteur, mais c'est un rêve un peu... En fait, c'est plus un rêve d'aventure. J'ai l'impression que le type qui joue Indiana Jones, c'est un peu naïf, hein, comme
ouais, il vit une aventure.
Il vit une aventure, quoi. Ouais. Alors, je suis pas débile, je sais bien qu'il vit pas l'aventure d'Indiana Jones, mais j'imagine quand même que le tournage d'Indiana Jones, c'est une aventure, et que c'est génial, et qu'en plus, après, ça procure du rêve et du bonheur. Et je lui dis, mais c'est ça que je veux faire, que je veux être là-dedans, quoi.
Et avec du recul, c'est vrai ou pas, alors, du coup? Si tu tournes à Indiana Jones, tu vas...
Oui et non. Oui et non. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'un tournage, c'est une aventure en soi. Ouais. Et que moi, j'ai fait des films plus ou moins réussis ou qui ont plus ou moins marché, mais j'ai pas vécu de tournage pénible. Ça reste quand même quasiment tous des bons souvenirs. Et ça, c'est une aventure en soi qui est géniale et que j'avais pas vraiment anticipé quand je connaissais pas le cinéma. Mais c'est sûr que j'ai plus eu l'impression, quand j'ai réalisé mon film... que là, j'avais, je touchais du doigt ce rêve d'aventure que j'avais eu quand j'étais gamin et que j'avais projeté sur les acteurs. En fait, je l'ai trouvé en tant que réalisateur, cette sensation-là.
Pourquoi? Parce que t'as plus de liberté de créer?
Oui, parce que là, j'ai...
T'es sur les costumes,
Il y a une vision globale. Je suis pas juste un instrument, un des éléments...
Tu crées l'univers, en fait.
Voilà. Et là j'ai retrouvé cette jubilation que je pensais trouver en tant qu'acteur quand j'étais ado. J'ai vu que ça se passait plus là, en fait. Et mon plaisir d'acteur, il s'est déplacé à un endroit que j'aurais pas pu comprendre quand j'étais ado. Mais c'est sûr que en réalisateur, là, vraiment, c'est assez fou, hein. C'est assez magique. Hein. Ouais.
Et tu veux faire plus ?
Ah oui, ouais, j'ai très envie. Ouais, j'ai hâte de faire mon prochain film. Ouais, j'ai très très envie.
Dans lequel tu veux jouer à chaque fois ?
Pas forcément.
Ok.
Après, j'ai un réflexe d'acteur. Si le rôle est bien, j'ai pas envie de le filer à quelqu'un d'autre. Je me dis, bah non, bah, le rôle est bien, non, je vais le jouer.
Mais c'est comment d'ailleurs d'être réalisateur et d'être l'acteur dans son propre film pour avoir l'objectivité du réalisateur quand t'es l'acteur en même temps?
Ben, t'as mis le doigt sur un problème. Moi, c'était mon problème sur mon film, c'est que j'ai fait très peu de prises sur moi parce que j'avais pas vraiment d'avis, quoi. Parfois même, je faisais une prise et puis j'avais quand même ma script qui me disait, bah, on peut peut-être juste en faire une deuxième. Ah oui, d'accord, ok. Donc on en refaisait une deuxième. J'allais regarder au combo ce que ça a donné, mais j'avais pas vraiment d'avis, quoi. Et après, au montage, du coup, il me manquait des variations de jeu, des nuances auxquelles un metteur en scène aurait sûrement pensé, mais que moi, pour lesquelles j'avais pas assez de recul. Donc, c'est pas hyper confortable, en fait.
Ouais.
Donc, le prochain, je sais pas si je jouerai dedans. Je sais pas.
Mais ça serait quoi si tu voulais le faire? L'astuce pour le faire, c'est d'avoir un rôle spécial assistant réalisateur qui est vraiment câblé pour...
Ça, ouais, ça pourrait être ça. Ça pourrait être quelqu'un qui est là que pour la direction d'acteur et notamment pour travailler avec moi sur le travail d'acteur. Mais il faut quelqu'un... Il faut vraiment un jumeau. C'est compliqué d'être dirigé par quelqu'un qui réalise pas le film, je trouve. Mais ce serait peut-être une solution, ouais. Ouais.
Juste avant de revenir à l'interview, j'aimerais te présenter rapidement le but de cette chaîne. À Paradox, on adore le dev perso et en même temps, quelque part, on le déteste. En tout cas, c'est code. Qu'on soit d'accord, on est certain que des petits changements peuvent changer totalement ta trajectoire de vie. Mais je sais pas toi, nous on en a marre qu'on prenne les gens pour des débiles avec des clichés, des solutions miracles, des contenus qui sont sans nuance ou encore qui t'expliquent qu'il y a qu'une bonne manière de vivre et réussir sa vie. On n'est pas des clones, notre vie elle est complexe, l'humain il est complexe, et c'est pour ça que sur Paradox Sans Filtre, l'intention en tout cas, c'est de s'approcher au plus près de la vraie vie. L'idée c'est que tu t'assoies avec nous pour passer un bon moment avec des gens au parcours hors du commun, souvent inaccessibles, et on découvre ensemble les coulisses de leur vie. On rentre dans leur tête et on fait ressortir les paradoxes qui ont changé leur vie. Mais aussi qu'on t'amène lors de nos événements et sous forme d'extraits sans fioritures, l'idée c'est de t'apporter un max de valeur. Sur Paradox Sans Fil, tu vas retrouver des formats longs et bruts, le genre qui fait plaisir quand on est à la salle de sport, dans les transports ou simplement quand on a envie de se détendre mais en même temps continuer de nourrir son esprit. Avec toujours une même quête, continuellement chercher à te donner ce qui marche. Si c'est le genre de contenu qui te fait kiffer, je t'invite à t'abonner et cliquer sur la petite cloche. Sache que ça compte énormément pour nous car c'est grâce à ça qu'on peut vous trouver des invités que vous allez adorer et qui sont souvent durs d'accès. En tout cas, si tu t'abonnes, sache que je suis vraiment reconnaissant et que tu vas recevoir du contenu qui déchire. C'est une promesse. Dans ton parcours, il y a des prises de risques que tu as prises qui se sont avérées fructueuses pour ta carrière, j'en sais rien. Essayer de rentrer dans une soirée où tu n'étais pas censé y être.
Ce genre de truc, non.
Qu'est-ce qui, selon toi, a fait progressivement
Quand j'étais jeune, je pensais beaucoup qu'il fallait aller au culot. Je connaissais personne dans ce métier, mais personne. Mes parents étaient dans l'immobilier. Je connaissais personne. J'avais même pas un numéro de téléphone. Je connaissais rien, quoi. Donc au début, je suis beaucoup allé au forcing. J'appelais les agents. J'harcelais des standards d'agence artistique pour parler aux agents, pour les inviter au spectacle que je faisais au cours Florent. Je savais pas quoi faire, quoi. Même une fois, j'étais en première année au cours Florent. Ils cherchaient ce qu'on appelle des doublures lumière pour la soirée des Césars. C'est-à-dire que pendant les répétitions, tu t'assois à la place des nommés, tu tiens un carton avec leur nom et la photo du nommé, et puis ils tirent un nom au hasard pour la répétition,
et tu te lèves,
tu vas chercher le César et tu fais blablabla bla 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 à la place du mec qui est vraiment nommé et tu retournes t'asseoir.
Ah, c'est dur.
Donc le bon job bien... bien frustrant, mais bon, je me dis, c'est pas grave, je verrai comment ça se passe, je vais peut-être croiser un réalisateur que j'aime bien et tout. J'y suis allé, voilà, l'esprit léger. J'ai dit, je sais pas, je dois avoir 19 ans quand je fais ça, ou 20 ans. Je me souviens, j'étais assis à la place de Manuel Blanc qui était nommé pour J'embrasse pas, le film de Téchiné. qui devait avoir le même âge que moi d'ailleurs, je pense, à l'époque. Bref. Donc c'était en même temps frustrant, en même temps c'était fun, quoi. Et je m'étais dit, mais quand j'y repense, c'est vraiment honteux, quoi. Je m'étais dit, non mais comme quoi, j'avais vraiment une approche très naïve de ce métier. Puisque je suis dans la salle et qu'il y a les programmes qui sont posés partout pour tous les invités et qu'il y a leur nom sur le siège, je vais cibler qui j'aime bien. Je vais foutre une photo d'acteur, quoi, avec mon CV, et je vais le glisser dans le programme des réals, quoi, que j'aime bien. Et je fais ça, et je rajoute une petite phrase de Capra que j'aimais bien, qui est « Seuls les audacieux devraient faire du cinéma ». Donc j'écris ça derrière, je signe Franck Capra, en plus il y avait un hommage à Capra pendant la soirée, j'avais vu pendant les répètes, et je fous ça dans les programmes, voilà, je sais plus, des réalisateurs que j'aimais, quoi. Et ça a servi à rien, évidemment, mais...
Mais tu sais que ça aurait pu, parce que j'ai lu une histoire assez dingue,
ouais,
d'un gars qui osait, donc à Los Angeles, qui rêve de réussir dans le cinéma. Tout le monde lui dit que c'est mort, etc. Donc il a une stratégie assez similaire à la tienne, c'est, ouais, qu'il se dit, bon bah, les acteurs, les réalisateurs vont tous aux toilettes à un moment donné. Donc, ouais, du coup, il met des pancartes dans les toilettes.
Dans les,
mais il va faire ça pendant des années.
Ah ouais.
Et en fait, au bout d'un moment... On va lui proposer, je sais pas, c'est pas un petit rôle, mais on va lui proposer en tout cas de jouer un rôle, pas en tant qu'acteur, dans un tournage, pour en tant qu'assistant. Et en fait, il est tellement déterminé que bah il va finir par se retrouver dans des gros gros films,
ah ouais,
avec Matt Damon, etc. Donc tu vois, ça se trouve, si t'avais fait ça tous les soirs pendant
peut-être,
ça.
Peut-être. C'était pas l'objectif, mais.
Faut que je te retrouve le nom après, de tout à l'heure.
Bon, en tout cas, ça te raconte un peu, tu vois, vraiment
comment
j'étais perdu déjà, parce que j'avais aucun contact. Je trouvais pas de porte d'entrée dans ce milieu. J'inventais des portes qui n'étaient pas les bonnes. Et j'étais vraiment... je savais pas comment faire, quoi.
Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est avéré plus fonctionner pour toi ?
Bah, en tout cas, pas de la stratégie débile comme ça d'intrusion, quoi, évidemment.
Ouais.
J'ai compris très vite. Et plus le travail, en fait.
Te focaliser sur ton art.
Ouais, sur le travail, sur les rencontres, créer un noyau, créer une bande de potes. Mais même pas dans l'envie de travailler, tout ça. C'est juste de m'entourer de gens qui ont les mêmes envies, la même vision de ce métier, de ce qu'on peut en faire, de comment on peut le faire. Et puis d'essayer de grandir ensemble. Mais déjà, de pas être seul, ça a été une envie très tôt, ça. En cours de théâtre, au cours Florent, très vite, j'avais envie de m'entourer de potes voilà, qui avaient les mêmes envies, les mêmes désirs.
Et donc, s'il y avait le jeune Laurent de 18 ans, entre guillemets, là, qui pouvait nous regarder, qui est en train d'essayer de mettre,
ouais,
ses petits messages, du coup, là, tu lui dirais quoi, en fait, si j'essaie de comprendre
Je dirais, sois patient, ça va être un petit peu plus long que prévu.
Ouais, donc bosse.
Ouais, bosse. Oui, parce que j'étais flemmard longtemps, quand même. Oui, bosse un peu plus, peut-être, ouais.
Ouais, donc, il y a le côté vraiment travailler... son métier pour sortir du lot,
ouais,
et créer un noyau de personnes avec qui tu te sens bien et pas le faire uniquement dans le but
oui,
de rentabiliser.
Oui, parce que là, quand on analyse les étapes, on a l'impression que tout est calculé.
Non, bien sûr.
Mais c'est juste... En fait, je me rends compte que c'est ce qui s'est passé, en fait, naturellement, quoi.
Mais j'essaye plus de voir, parce que je vois encore plus dans notre nouvelle génération de jeunes, on veut tout rapidement, et c'est accentué par le fait d'avoir beaucoup de choses en un clic. Et je pense que cette idée de patience, elle est déterminante. J'essaie de me dire, voilà, quelqu'un qui nous écoute, qui a envie d'être acteur ou actrice, c'est quoi finalement, sur quoi il peut se focaliser, qui a quand même plus de chances de payer, quoi. C'était ça ma question.
Bah, le travail et le plaisir. Je pense que si on commence à avoir moins de plaisir dans ce qu'on fait, c'est qu'on se gourre. Il faut que ce soit le radar permanent, en fait, le plaisir. Et quand on en prend moins, essayer de comprendre pourquoi. Et réorienter en fonction de ça.
Ça t'est arrivé des moments où tu commençais un peu à t'éloigner de...
Tout le temps. À chaque fois, je commence quelque chose et j'ai envie de réorienter.
Mais c'est quoi, par exemple? Je suis en train d'aller vers la comédie, j'en sais rien, par papa ou maman.
Ouais.
En fait, finalement, j'ai plus envie de continuer dans cette direction. C'est dans quel sens?
Ou alors, pas avoir... Non, envie de continuer dans la comédie. Moi, j'ai toujours envie d'en faire. Ça, c'est pas... Mais... essayer d'avoir une carrière qui évolue en même temps que ses goûts, quoi. Moi, j'ai pas les mêmes goûts qu'à 19-20 ans. J'ai découvert des choses que je comprenais pas. Et ce qui est important, c'est d'essayer de pouvoir réorienter sa carrière. Mais c'est difficile parce que quand on est acteur, on n'a pas tant la main que ça sur sa carrière. On est toujours évidemment dépendant de ce que les autres imaginent pour vous. Donc ça veut dire que quand on veut un peu réorienter les choses, il faut apprendre à dire non, refuser, être patient. Attendre que justement il y ait le bon projet qui arrive par rapport à la direction qu'on a envie de prendre. Et ça demande un petit peu de courage à certains moments.
Tu veux dire, par exemple, tu te mets à être connu pour un type de rôle et pour pas s'enfermer dans...
Oui, ben moi, typiquement, j'ai débuté avec une sitcom qui s'appelle Classe Mannequin, qui était une sitcom qui a cartonné dans les années 90. Et j'étais content, j'ai 20 ans, j'ai du travail.
C'est fou.
Je gagne des sous, je prends mon appart, machin, je gagne mon statut d'intermittent, je deviens comédien. Et puis, je vois le résultat et c'est pas nul. Par rapport aux sitcoms d'AB et tout ça, c'est pas... Mais c'est clairement pas ce qui me donne envie de continuer, quoi. Et là, on me propose la saison 2, et forcément, j'ai pas d'autres perspectives de travail. C'est très bien payé, j'ai 20 ans, qu'est-ce que je fais, quoi ?
C'est clair, c'est ouf.
Et je dis non, je le fais pas.
Donc tu dis non, sachant que t'as un appart ?
Ouais, et que je sais pas ce que je vais faire, quoi. Mais je sens que si je continue, je vais me retrouver coincé dans quelque chose qui ne correspond pas à mes désirs qui, eux, sont en train d'évoluer parce que j'ai découvert tel cinéaste entre-temps, parce que j'ai découvert tel metteur en scène au théâtre, parce que mes goûts se déplacent.
Tu voulais aller vers un truc plus dramatique ?
Non, pas forcément plus dramatique, mais en tout cas, de juste avoir ma tête dans le poste et de gagner de l'argent en tant qu'acteur et de devenir comédien professionnel, ça allait pas me suffire. Il fallait que je fasse des choses
qui te fassent vraiment,
qui me fassent vraiment vibrer, dont je sois fier et qui correspondent aussi à mes goûts de spectateur, j'ai envie de dire. Et donc là, je décide d'arrêter ça.
Mais il s'écoule combien de temps entre dire non et avoir une autre opportunité ?
Alors là, je pense que j'ai dû rester sans boulot pendant plus 6-8 mois, je pense, à peu près. Et après, j'ai décroché une pièce de boulevard avec Marthe Villalonga, qui s'appelait Croque-Monsieur. et je pars en tournée avec cette pièce. Et après, on le joue à Paris. Et là, je joue dans une pièce de boulevard. Et le boulevard, ça me faisait marrer, parce que quand j'étais gamin, je regardais Au Théâtre Ce Soir à la télé avec mes parents. Et ça me fait marrer, je joue dans un boulevard. Il y a le lustre, il y a l'escalier, les gens rigolent et tout, c'est cool. Et puis, c'est la première fois que je fais une tournée, c'est la première fois que je joue un spectacle en entier sur scène et tout. Donc ça m'amuse, et en même temps, un peu pareil qu'avec Classe Mannequin, je me dis, je me vois pas du tout
faire ça de ma vie toute ma
ouais.
vie.
Et pendant que je joue Croque-Monsieur, je vais au Théâtre de la Villette voir Hamlet, mis en scène par Chéreau avec Gérard de Sarthe, et là j'ai une espèce de choc visuel, intellectuel,
tu dis,
théâtral.
Je
me dis, là ça m'ouvre un horizon. Je dis, bien sûr que c'est ça le théâtre, quoi. Et du coup, je porte un regard pas du tout méprisant sur le boulevard,
mais
en tout cas,
je sais que
là, il y a une perspective sans fin. Je sens que le théâtre de boulevard peut être un peu une boucle.
Ouais.
Et que, en revanche, quand je sors d'un spectacle pareil, je suis ailleurs et ça me paraît être une perspective infinie, quoi. Et je me dis, j'ai pas du tout accès à ce théâtre-là, j'ai pas du tout accès à des metteurs en scène comme Chéreau, j'ai pas du tout accès aux textes de Shakespeare. Je n'ai pas accès à ça, quoi, parce que j'ai juste fait les cours Florent, parce que j'ai fait un sitcom, parce que je joue dans une pièce de boulevard. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Donc là, je me mets à plat, pragmatique, je dis, qu'est-ce qu'il faut pour avoir accès à ça ? Je dis, Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Il n'y a que ça. Je suis en limite d'âge, j'ai 23 ans, c'est la dernière année pour passer le concours. Je suis plus en cours, donc je peux plus préparer le concours en cours, ce qu'on fait normalement.
Ouais.
Donc je me dis, bah tant pis, je vais louer une salle de répète. Il y avait des petites salles de répétition qui se louaient rue Saint-Roch à Paris. Je vais louer une salle de répète, je vais bosser mes scènes de concours et je vais le bosser tout seul.
Wow.
Donc je trouve des copains pour me donner la réplique. Je bosse le concours et donc je passe le premier tour, le deuxième. Je suis reçu au premier tour, je suis reçu au deuxième tour. Le troisième tour, c'était un stage. Un stage d'une semaine, et à la fin, ils en gardaient un sur deux. Et je suis pris au conservatoire.
C'est dingue.
Donc là, je me dis, bon, bah, là, je réoriente. Dans une direction que je connais pas bien. Moi, quand j'arrive au conservatoire, il y a des gens qui connaissent super bien Racine, Corneille.
Ouais, ça fait des années qu'ils sont dedans. Toi, t'as eu le déclic il y a 3 mois, quoi.
Bah oui, ils ont des parents profs, ou metteurs en scène, ou acteurs, ou musiciens.
Et tu le vis mal, d'ailleurs, le sentiment d'être, je sais pas comment dire, j'ai l'image du signe noir au milieu des signes.
Ouais, non, je le vis pas mal parce que déjà, j'ai des potes qui sont, je repère vite les gens qui sont un peu dans la même position que moi. Et moi, je me dis, mais moi, je ne méprise aucun théâtre. Donc j'ai surtout pas envie de sentir le mépris des autres sur quoi que ce soit, quoi.
Mais tu te sens pas en mode, t'aurais pu par exemple te dire, putain, je suis un imposteur, qu'est-ce que je fous là? J'ai un pote par exemple qui se retrouve à réussir à aller dans une école de commerce hyper prestigieuse, il est entouré de gens qui viennent de familles qui ont beaucoup d'argent, qui ont des codes, etc. Et il me disait que par exemple il avait mal vécu de sentir un petit peu j'ai pas les codes, quoi, je sais pas.
Non, parce que j'avais plus les imposteurs, les vrais imposteurs, je les reconnaissais.
C'est quoi un vrai imposteur ?
Les vrais imposteurs, c'était justement ceux qui se donnaient des grands airs d'acteurs citoyens, de motivation politique. Il y en avait des sincères et il y en avait d'autres qui étaient vraiment dans une posture caricaturale de l'acteur dit de théâtre subventionné, on va dire, pour caricaturer aussi. Et moi, je tombais pas dans le panneau, quoi.
Mais tu penses qu'ils font ça dans quel but ?
Mais c'est, tu sais, au conservatoire, on a 19, 20, 21, 22, 23, on s'invente des personnages comme on peut s'inventer un personnage gothique, punk ou...
Et tu rentres dans un archétype.
On se crée des figures tous pour s'affirmer, et les gens qui se créent des figures qui étaient un peu des impostures, moi je les grillais assez vite, et ça m'impressionnait pas du tout. Ils pouvaient mépriser mon travail ou mon plaisir à jouer des textes légers comme Fedot, Courteline, ou mon envie de comédie, qui était très présente encore au conservatoire. Et je sentais un petit mépris par rapport à ça. Ça ne m'impressionnait pas du tout.
Et donc, tu fais ça. Et, ouais. Et du coup, c'est quoi les étapes entre avoir fait le conservatoire et pouvoir te retrouver à jouer une pièce comme celle où tu as eu un coup de cœur, quoi ?
Cyrano ?
Non.
Parce que là,
pas Cyrano.
On fait un gros saut.
Non, pas Cyrano, mais les.
Ah, ben.
Entre le moment où tu vas au théâtre et tu te dis putain, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ouais, ce type
ben,
de théâtre.
Mais le conservatoire, c'était compliqué parce que le conservatoire, j'ai pas été très heureux là-bas. Parce qu'en même temps, je crois que j'ai plus cherché une validation institutionnelle qu'un enseignement.
Ouais, le tampon, quoi.
Ouais, le tampon. Voilà, le tampon, Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, acteur crédible, acteur sérieux, vrai acteur, pas juste jeune mec qui a des velléités.
Plus que la compétence.
Ouais, validé par l'institution, quoi. Donc pour moi, c'était important, ça. Après, concrètement, tous les jours, tu te lèves et t'as des cours. Et là, il y a des choses qui m'ont vachement intéressé, beaucoup. Et je me suis aussi pas mal ennuyé. Et ma troisième année, je pars à Londres, dans le cadre d'un échange avec le conservatoire, dans une école de comédie musicale.
Trop bien.
Parce que je voulais travailler voilà, le chant, la danse et tout ça qu'on travaillait pas comme je voulais au conservatoire. Donc je pars un an à Londres et je travaille un petit peu plus.
Tu vas faire en anglais ?
Oui.
Tu vas jouer en anglais ?
Ouais, là je vais jouer en anglais. Ouais. Donc je pars là-bas et là je découvre le travail à l'anglo-saxonne. Quoi, qui est quand
c'est
même,
des machines.
Quand même différent. Ouais, c'est des machines. C'est un peu le défaut aussi. Mais en même temps, il y a un rapport à l'efficacité qui est très important parce que qui est sans fausse pudeur. Ouais. Et ça solidifie. Après, ça peut être aussi un peu la limite de l'exercice. Mais je ne veux pas généraliser. Il n'y a pas un travail anglo-saxon en général.
Ouais, bien sûr.
Il y a des tendances quand même. Quand je sors du conservatoire, je n'ai pas de travail pendant 2 ans.
Putain.
Ouais, putain. Ouais.
Mais du coup, tes proches, ton entourage, ils ne disent pas tu ne peux pas refaire une sitcom
Non, alors si ma mère, elle était persuadée pendant des années que je m'étais fait virer de la sitcom et que j'avais pas osé lui dire. Parce que ça lui paraissait
allez,
tellement.
Honnête, dis-le, non, tu là, peux maintenant.
Tu t'es fait virer. Je dis, mais non, je te dis, je suis parti parce que je trouvais pas ça très bien. Je me dis, mais non. Et là, c'était chaud, là. Les 2 années en rentrant de Londres, c'était chaud. Il y a un organisme qui s'appelle le JTN, le Jeune Tête Nationale, qui prend en charge les élèves qui sortent des écoles nationales, donc conservatoire, tête nationale de Strasbourg. En fait, tu es pris en charge pendant 2 ou 3 ans, et tu es auditionné par des metteurs en scène, et si tu es engagé, le JTN paie ton cachet ou la moitié de ton cachet. Donc il y a plein de metteurs en scène et de compagnies qui, pour alléger leur budget, viennent chercher leurs acteurs dans cette structure-là, et puis ça permet aux jeunes qui sortent des écoles de rencontrer des metteurs en scène, quoi. Et moi, je passe 2 ans d'audition, mais
personne
beat prend. Sur beat sur beat sur beat. Bide, mais personne ne m'engage. Et là, je comprends qu'en même temps, j'ai réorienté ma carrière en entrant au conservatoire national, mais en même temps, je suis peut-être un peu en train aussi de m'aventurer sur des terres qui ne correspondent pas à ma nature profonde et qu'il faut faire gaffe à ça aussi, quoi. Pas se perdre, être conscient, d'avoir une conscience pragmatique de qui on est, de ce qu'on dégage, de ce qu'on sait faire, et de ne pas se déconnecter de ça. Pour pas s'engager dans une impasse, même si ce sont des choses qui t'intéressent et que t'as envie d'explorer. Cet équilibre-là...
Il n'est pas facile, ouais.
Ouais, il n'est pas facile à trouver. Et là, je sens que...
C'est-à-dire qu'en fait, l'univers t'attire.
Ouais.
Mais dans ce que ça demande d'être un peu le prototype,
ouais,
le cliché de ce type de comédien, c'est pas toi.
Non, c'est pas moi. Et il y a toujours des gens pour qui c'est un peu plus leur domaine, ou qui en tout cas arrivent à créer l'illusion
que ça l'est,
que ça l'est,
et qui le veulent peut-être plus de créer l'illusion.
Non, parce que moi j'avais très envie, hein. Qui savent peut-être plus le faire ou qui sont peut-être juste meilleurs que moi, attention.
Ouais, bien
je
sûr.
Peux pas dire, il y a des imposteurs qui réussissent et puis moi, le génie incompris qui accumule les bides. Non, non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire.
Mais des fois, ce que je voulais dire dans envie, c'est que des fois, mentalement, on a envie, ouais. Mais au fond de nous, on a moins envie. C'est, ça que je... c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que
oui,
des
oui,
fois,
oui.
On croit qu'on veut quelque chose.
Oui.
Mais en fait, on n'est pas honnête avec nous-mêmes. C'est qu'au oui, fond, on veut autre chose. C'est proche, mais c'est pas ça, quoi.
Oui, parfois, on veut quelque chose par rapport à ce que ça représente, plus ouais. Que par rapport à qui on est vraiment. Et ça, en tant qu'acteur, en tant qu'artiste, je pense, de toute façon, c'est une question qui est essentielle tout au long de sa carrière, je pense. Dès qu'il y a des déplacements de désir, c'est toujours intéressant d'interroger ça. Pourquoi j'ai plus envie d'aller là ? Et est-ce que je peux le faire ? Et est-ce que c'est intéressant ? Et est-ce que surtout pour le public, c'est intéressant. Est-ce que c'est plus intéressant pour les spectateurs de me voir dans ça que dans ça, même si moi j'ai envie de plein de choses. Donc c'est un équilibre, je pense, qui met du temps, surtout quand on... Moi je te parle de ça, c'est des périodes où j'ai 25, 26, 27 ans, où je ne suis pas encore complètement sûr de qui je suis, de ce que je veux faire, c'est tout en mouvement, quoi.
Mais je trouve ça super intéressant, en tout cas, tout ce partage, dans le sens que tu peux savoir que l'univers qui te plaît, c'est par là. Mais au sein de cet univers, il y a des millions de dégradés.
Ouais.
Et il y a un dégradé qui te correspond plus qu'un autre.
Oui.
Et dans lequel tu as plus de plaisir, tu es plus inspiré, ouais. Du coup tu vas être meilleur, ouais. Et il y a un cercle vertueux qui s'installe.
Oui. Et d'ailleurs, comme par hasard, le seul metteur en scène qui m'engage pendant cette période d'audition au JTN, c'est un metteur en scène qui s'appelle Gildas Bourdet, qui travaillait beaucoup, qui a dirigé le Théâtre de la Criée à Marseille, et qui a pris le Théâtre de l'Os Parisien à Boulogne. Et lui, il faisait beaucoup des ponts entre le théâtre public et le théâtre privé, des choses qui n'existent pas trop en France et qui ne sont pas toujours bien vues. Et il avait un petit peu un pied dans les deux formules. Comme par hasard, c'est lui qui m'engage pour la première fois au JTN.
Mmh.
Enfin, à travers le JTN. Donc, c'était un signe quand même. Ça.
Non, c'est super intéressant. En tout cas, de voir que ton unicité, je ne sais pas comment formuler ma phrase, mais en tout cas, là où toi t'es unique, il y a quelqu'un entre guillemets qui en a besoin et qui le cherche, quoi.
Oui, et ça c'est très réconfortant dans ce métier, c'est qu'il y a souvent quelqu'un qui te correspond et il y a beaucoup de rencontres salvatrices. Et ça passe vraiment beaucoup par des rencontres. Je crois pas au parcours solitaire, au soldat solitaire, bon, peut-être pour le one man ou le stand-up, mais ce qui est curieux, parce qu'on parlait du regard qu'on a sur un théâtre considéré comme plus qualitatif et un théâtre de divertissement, tout ça. Moi, quand j'ai quitté le conservatoire et que j'avais pas de boulot, je suis resté 2 ans sans travail, j'ai perdu mon statut d'intermittent et je pensais vraiment arrêter. Je pensais vraiment changer de métier, me réorienter vers l'écriture. Je commençais à écrire et tout ça.
L'écriture de quoi ?
De scénario.
Ok.
Donc, je commençais vraiment à développer ça. Et j'ai pas de travail et là, j'ai un pote qui m'appelle et qui me dit, on monte une comédie qui s'appelle Célibataire. Au Mélo d'Amélie. Alors, pour les Parisiens qui connaissent, je ne sais plus s'il existe encore ce théâtre ou s'il s'appelle tout le temps comme ça. C'est une petite salle de 100 places, petite tête de comédie, au quartier Montorgueil. Moi, je sors du Conservatoire National et ma seule perspective de boulot, c'est célibataire au Mélo d'Amélie. Et franchement, je me dis, putain, c'est chaud.
Tout ça pour avoir arrivé à faire ça, quoi.
Ouais, et je regarde, pas avec mépris, mais je me dis, bon, ça fait chier, quoi. Je dis, mais bon, faut que je joue, quoi. Je le fais. J'y vais un petit peu en traînant les pieds. Et on s'est tellement fendu la gueule en répétition. On a joué le spectacle dans cette petite salle. C'est même pas des sièges, hein, c'est des bancs en bois et
ouais,
tout,
ouais.
Avec des petits coussins rouges et tout. On s'est tellement marré. Les gens ont tellement ri. Je dis, putain, mais t'es en train de devenir un gros snob de merde, en fait. Et j'ai tellement pris de plaisir. La pièce a cartonné. On est passé de la petite salle de 100 places au Théâtre du Splendide.
Wow.
Quand on faisait 400, on a fait toute une tournée. Et j'étais sûrement dans un des spectacles les moins chics de Paris. Mais c'était...
Proche des gens.
Mais, ouais, encore, je dis ça, mais c'est pas vrai. C'était pas du tout un spectacle vulgaire. Mais c'était tellement drôle. Et je me suis reconnecté à plein de choses. À plein de choses dont je m'étais un peu éloigné et je me suis dit il va falloir que ma carrière j'essaie que ce soit un mélange de plein de choses, ça va être compliqué mais en tout cas c'est voilà, je me suis dit bon, t'emballe pas, deviens pas un petit snobinard, continue à savoir qui tu es, ce que tu sais faire, où est-ce que tu procures du plaisir et où est-ce que tu en prends toi, de toute façon c'est lié et avance tranquille quoi.
Ça me fait penser à un concept, je sais pas comment on le dit en français, un concept de psychologie que j'aime bien, c'est failures repurpose, donc
ouais.
Les échecs te ramènent sur ta voie.
Mm-hmm.
Et je trouve que ce que tu décris, c'est un peu ça. C'est-à-dire que finalement, oui. peut-être que si tu avais eu pendant ces deux ans des rôles dans l'univers que tu cherchais à la base, potentiellement, tu te serais encore plus perdu dans un truc qui n'était pas totalement toi. Et le cadeau de ces deux ans, au final, c'est qu'il te force à aller faire cette petite pièce en apparence ouais. et te retrouver, quoi.
Bien sûr, ouais.
Et en même temps, c'était pas une perte de temps, tout ce virage ou ce, je sais pas comment on dit, enfin, ce détour.
Ouais, ouais.
Parce que tu trouves quand même un truc que tu veux pour le reste de ta vie.
Oui, j'ai quand même des cours au conservatoire, j'ai quand même lu énormément, j'ai arrêté mes études en seconde, moi. Donc j'ai pas du tout fait d'études littéraires, j'ai pas fait de philo, j'ai pas fait de... donc j'ai lu beaucoup pendant mes trois années d'études quand même, donc j'ai découvert des auteurs, j'ai aiguisé plein de choses aussi. Donc c'était pas du tout du temps perdu, j'ai pas l'impression de m'être perdu dans quelque chose qui me correspondait pas. Mais en tout cas, c'était important au niveau du plaisir pur de jeu, d'acteur, de recadrer les choses. Et c'est passé par ce qui, a priori, pour moi, était un spectacle que j'avais pas envie de faire et que finalement, j'ai adoré faire. Et pour l'anecdote et pour les gens qui ont regardé la série Tapis...
Qui est trop bien, franchement, j'adore.
Merci. Célibataire, donc cette pièce que j'ai jouée au Molière d'Amélie et au Splendide, avec Sandrine Molaro et David Talbot, qui joue le procureur. Montgolfier.
Ah oui, dans l'ambiance
voilà,
un peu tamisée.
Cette grosse scène de 25
elle,
minutes.
Il est fort.
À la fin du set de l'épisode 7 dont on
il
a beaucoup parlé.
Bien,
ouais, il est super. Eh ben David, j'ai rencontré sur cette pièce.
C'est dingue. Et d'ailleurs, en parlant d'une série comme celle, donc Class Act avec Bernard Tapie, toi,
tu dis le titre anglais.
Ah ouais.
Class Act, c'est marrant.
Bah du coup, ça s'appelle comment
en français, c'est marrant. Tapie, elle s'appelle.
Ah oui. Du coup. Mais tous mes trucs sont en anglais, donc je pense que
ah
je...
Ah oui, c'est pour ça, alors. Ouais.
J'ai dû voir le titre...
Ouais, c'est le titre anglais. Ouais.
Titre anglais, ok. D'ailleurs, je me disais, bon, bah, c'est bizarre comme choix pour...
Ouais, ils ont fait un petit jeu de mots, je crois, mais...
Et donc, comment une série comme ça, ça te change, toi, de jouer un personnage aussi fort que Bernard Tapie? Ça te change?
Je sais pas si ça me change, ça me renforce, parce que c'est un tournage intense, on a tourné presque 5 mois, il y a beaucoup de textes.
Mais le personnage, jouer un personnage comme ça, ça te change?
Ah
ou pas?
Non.
Non?
Non. Non, j'ai pas un rapport un peu métaphysique avec les personnages. J'ai jamais l'impression de rentrer dans la peau d'un personnage, de devenir quelqu'un d'autre, de devoir après me débarrasser d'une personnalité.
T'as jamais vécu ce que certains vivent, un peu l'exemple cliché du Joker, là, qui. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur.
Ah, Heath Ledger.
Ouais, Ledger.
Ledger.
Ouais, qui arrivait pas à ressortir de son personnage, quoi.
Non, j'ai pas eu ça. Je peux mettre un petit peu de temps à sortir d'une émotion que j'ai provoquée pour une scène, mais pas d'un personnage, non.
Mais donc, par exemple, t'es pas le type d'acteur qui va se comporter en mode Bernard Tapie 24 heures sur 24, même en dehors du studio.
Non, en revanche, Bernard Tapie, c'était long quand même. Donc, je pense qu'il y avait des petits trucs de gouaille, des petits trucs de parigot, en plus, moi, qui peuvent revenir assez vite parce que je suis parisien, qui devait être peut-être un petit peu plus accentué. Je devais être peut-être plus en man spread que d'habitude, quoi. Peut-être, pendant le tournage.
Mais tu penses que c'est quelque chose qui peut être utile dans ton quotidien ou pas forcément?
Le man spread?
Ouais.
Non, pas forcément. Non, je pense pas. Non, je crois pas. Non, ce qui est utile par la suite, c'est de... Quand t'as un personnage comme ça qui est vraiment très... puissant, quoi, qui prend beaucoup de place, et de le tenir comme ça sur des mois, ça te renforce en tant que comédien.
Mais en tant qu'homme, il n'y a pas des situations dans lesquelles tu te dis, allez, en mode Bernard Tapie, par exemple.
Non.
Non, ça t'arrive pas de faire ça.
Non, je crois pas, non.
Ok, et tu penses que ça serait, t'en penses quoi? Tu penses que ça serait quelque chose de pas intéressant, ça serait faux?
Non, ce qui est intéressant dans un personnage et les répercussions que ça peut avoir sur ta vie, c'est que parfois ça te fait, tu te désaxes un peu de ta pensée. Alors moi j'ai plus ça avec les personnages que j'ai du mal à sauver, quoi. Sauf que pour interpréter un personnage, je suis obligé de prendre un axe d'empathie.
Ouais.
Sinon je vais jouer ce que je pense de lui au lieu de l'incarner, quoi. Par exemple, dans, je sais pas si tu as vu le film de Paul Verhoeven, Elle, avec Isabelle Huppert, où je joue un violeur.
Ben c'est dur.
Oui, c'est dur. Là, je me dis comment je vais arriver à jouer le personnage, quel axe, quel point d'entrée je vais trouver avec ce mec.
Donc tu fais comment? Parce que là, ce que tu amènes, c'est un truc qui est hyper intéressant. C'est qu'on a tous, à des degrés différents, tous les vices chez l'humain. Ils sont tous en nous. Mais par contre, on est plus ou moins honnête et en capacité d'y accéder. C'est-à-dire qu'on a tous un degré de psychopathie, un degré de mythomanie. On a tous un peu tout. On a tous de la violence en nous. Comment toi, tu fais pour arriver à te dire... Tiens, j'arrive à avoir de l'empathie pour ce profil qui viole. Comment tu fais?
Mais alors, c'est intéressant quand tu parles du monstrueux, parce que moi, je suis très connecté au monstrueux. Ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que plus on est connecté à son monstre, plus on le domine.
Je sais pas si tu savais, Carl Jung, qui c'est vraiment sa philosophie de pensée, c'est-à-dire que plus je suis capable de voir ma part d'ombre, plus je suis capable de dialoguer avec elle. Ouais. Paradoxalement, mieux je vais pouvoir la gérer, la maîtriser. Bien sûr. Et que lui, c'est vraiment toute l'idée, c'est de dire plus tu vas réprimer une part d'ombre, plus elle va s'exprimer quand t'es fatigué,
bien sûr.
Stressé, où il y a de l'enjeu, où t'es en colère.
Comme tout ce qu'on met sous le tapis. Exactement. C'est pour ça que j'ai très peur en ce moment, moi, à quel point on veut réduire, restreindre l'humour à la bienveillance. L'humour, surtout, à la bienveillance. Parce que je pense que l'humour est un accès idéal pour le monstrueux.
Oui, c'est une soupape, ouais. On peut dire les choses,
ouais, se marrer. Je pense que c'est très, très, très important.
Ouais.
L'humour, c'est comme une espèce de safe zone. Ça doit rester une safe zone, justement, dans laquelle on peut exprimer tout le monstrueux, s'en débarrasser par le rire, y être connecté et le gérer, du coup. Et là, il y a une telle peur de choquer, d'offenser, un tel désir de bienveillance absolue et permanent, que je trouve que la menace, elle se porte beaucoup sur l'humour et que je trouve ça très, très, très...
dangereux.
Ouais, au long terme, oui. En tout cas, je trouve qu'il y a un enjeu, je vais dire un grand mot, mais un peu civilisationnel, en tout cas. Je pense vraiment que c'est qu'il faut faire gaffe à ça, quoi. Mais ouais.
Mais de toute façon, non, mais c'est clair. Et en France, je trouve qu'on le voit pas encore autant qu'aux États-Unis. Mais aux États-Unis, ça prend des ampleurs de dingue. Et je pense que ça vient que toute la communication doit être lisse, doit être bienveillante, doit être gentille. Et c'est comme si on essayait d'éradiquer une grosse dimension de l'humain. Mmh. Et c'est pas parce qu'on se met tous d'accord, il faut faire ça maintenant, que l'humain il a changé. Notre cerveau il a un corps, ouais, très primitif. Et on n'apprend pas du coup à la gérer. Mmh. C'est-à-dire tu sais pas gérer tes pulsions, t'es pas censé en avoir, ta colère, t'es pas censé, ouais, en avoir.
Et c'est encore plus contrariant et choquant, je trouve, en France. Ça correspond pas du tout à l'esprit français.
Oui, qui est révolutionnaire.
Ah bah oui, quand même. Nous, on a quand même tous un petit gène jacobin qui est jamais loin. On a toujours... on aime ouvrir notre gueule. Et du coup, cette espèce d'américanisation de la pensée, cette injonction à la bienveillance, elle m'angoisse pas mal, quoi.
Mais du coup, par rapport à ça, toi, ça t'arrive des fois de te dire « Putain, je peux pas faire une blague sur tel sujet, ou il faut que je fasse gaffe. » Alors c'est un autre exemple, là c'est pas une actrice, mais c'est Taylor Swift.
Ouais, la chanteuse de country.
La chanteuse, ouais.
Qui perce partout sauf en France.
Ah
j'aime,
ouais,
bien ça, le côté. On est un peu les Astérix et Obélix de Taylor Swift.
Et ben elle disait dans son documentaire que pendant longtemps, elle se disait « je suis qu'une chanteuse, je suis pas censée m'exprimer, ouais, elle voulait pas faire de vagues, elle avait beaucoup de peur,
ouais,
des vagues. » Toi, c'est quoi ta vision sur tes propres opinions ou des choses comme ça, par exemple?
Moi, j'aime pas trop m'exprimer en mon nom propre. J'aime pas dire « je pense que »,« je trouve que ».
Mais créer un personnage
si qui
dit
que
quelque chose.
Faire. mais oui, quand, j'aime bien rester dans ma fonction. Et là, je peux dire des choses. Quand j'écris mon one-man show, c'est pour m'offrir une plage de liberté et pouvoir aller sur des sujets et un ton qui m'intéresse, qui me plaît mais qui pour moi passe par l'écriture et par des personnages. J'ai toujours besoin de rester dans ma fonction pour parler de la manière dont je perçois le monde dans lequel je vis et auquel je suis très très connecté et par lequel je suis extrêmement concerné. Mais je pense que s'il y a un discours à tenir, il n'est recevable et audible que si je reste dans ma fonction.
Okay.
Et ma fonction, c'est acteur, auteur.
Mais du coup, quand t'écris un one-man show comme ça, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, même via le personnage, « Ah, je peux pas, c'est trop... »
Alors le premier, je me suis pas du tout dit ça, il allait très loin d'ailleurs, et le prochain, j'allais dire, je sais pas si on aura un prochain peut-être, mais...
ça sent le prochain quand même.
J'y pense un peu, mais... Disons que si j'en refais un, je vais devoir me forcer à ne pas me mettre de limites. Je vais me poser des questions que je me serais pas posé sur le premier. Et c'est des questions contre lesquelles il faudra que je lutte sûrement, mais je serai dans ma fonction. Dans ma fonction d'acteur-auteur.
Et du coup, toi, tu penses qu'on peut rire de tout? C'est quoi ta vision par rapport à l'humour? Parce que c'est vrai que quand tu regardes les sketchs de Coluche ou comment il s'appelle
Des Proches.
Ouais, Des Proches. Ouais. Si on les mettait aujourd'hui, je pense qu'ils auraient du mal à être acceptés, certains de leurs sketchs.
Oui. Après, il y a des évolutions qui sont naturelles. Moi, je peux rire de tout. Il n'y a rien qui m'agresse, il n'y a pas de vanne qui m'agresse, parce que pour moi, c'est comme un exercice de style, en fait. Donc, j'ai des potes qui sont plutôt, certains qui sont plutôt des gros vanneurs, et on se balance des vannes depuis longtemps, mais c'est comme un exercice de style, quoi. C'est comme un match.
Ouais. C'est un peu comme les rappeurs qui
ouais,
qui
c'est ça. Ouais.
Donc t'es comme ça avec tes potes.
Ouais, ça peut vriller comme ça, c'est facilement. Ouais.
Mais sur quoi? Sur leur performance, sur leur physique, sur...
Ouais, surtout. Surtout. Non, on peut... Ouais, surtout. Mais c'est de la joute, en fait. C'est,
ouais, c'est une joute verbale.
Ouais, voilà. Ouais. Donc, à partir du moment où c'est comme ça, moi, j'ai pas de limite. Au contraire, plus on va loin, et parfois, quand ça va trop loin, on fait « Oh la vache, je vais loin, là, là. » Mais c'est interdit, ça. En même temps, ce qui est pas mal avec tout ce qui se passe en ce moment et ce qu'on vit un peu comme des restrictions, c'est que ça replace les curseurs à un endroit que beaucoup vont s'amuser à nouveau dépasser. Donc, en fait, je pense que c'est quand même une boucle, tout ça.
Peut-être tu prends pas mal, par contre, certaines vannes de tes potes Ça t'arrive des fois que ça pique
Ouais, mais ça pique et en même temps, ça me fait rire. C'est les deux, quoi. Parce que si ça pique, c'est qu'elle est bien vue. Et si elle est bien vue, elle me fait rire, quoi.
Et donc, quand ça t'arrive, t'as tendance, du coup, à te marrer, à dire « bien joué, t'as touché », tu sais comment...
Ouais, je me marre et puis j'essaie vite d'en trouver une autre pour bien lui fermer sa gueule.
Ouais. Donc, tu dois te bien entraîner. Du coup, si je vais avec toi sur ce terrain-là, il faut que je sois préparé quand même à.
Je me défends pas mal, mais ça dépend de.
Parce que je vois par exemple ma femme, elle a grandi à Mantes-la-Jolie, donc elle a vécu dans un environnement où elle a été entraînée à avoir des punchlines.
Ouais.
Elle est plus entraînée que moi, et donc je sais que si j'y vais, il y a des chances que je perde. Et en plus, elle a un mélange d'avoir, je pense, l'entraînement et en plus une plus grande décomplexion à aller pointer sur un truc où moi je vais mettre un filtre.
Ouais,
donc
ouais,
ça va
ouais,
sortir
ouais.
Peut-être, mais avec moins de spontanéité.
Ouais, ouais.
Donc avec toi, il vaut mieux être entraîné, quoi, si on y
j'ai
va.
J'ai pas trop de filtres. je vais y aller.
Trop bien. Dans des moments un peu ouf de ta carrière, ou en tout cas des moments mémorables, t'as quoi des moments qui t'ont marqué une rencontre avec un acteur dont qui t'inspirait
Ah ça, il y en a plein. Il y a plein d'acteurs que j'ai adoré rencontrer. Plein, tout le temps.
Mais là, si par exemple, on écrivait un livre biographique pour toi,
ouais.
Autobiographique, t'as des moments que t'aimerais marquer qui t'ont...
Mais franchement, il y en a plein, quoi.
Mais un qui te vient comme ça. Mais je sais qu'il y en a forcément plein. Mais c'est pour l'espace de 2 minutes rentrer dans la vie de Laurent Lafitte.
Il y a plein de rencontres assez dingues que j'ai eu la chance de faire, quand même. Je me souviens quand j'avais présenté la cérémonie du Festival de Cannes, j'avais une idée, je voulais faire apparaître Catherine Deneuve qui rentre sur scène, qu'elle m'embrasse, qu'elle ressorte, mais qu'il n'y ait que ça, quoi. Et le principe, c'était à Cannes, il se passe des choses qui arrivent nulle part ailleurs, et puis hop, d'un coup, elle arrive, elle m'embrasse, elle repart. Bon, j'ai ce délire-là chez moi, comme ça, je dis, bon, vas-y, écris là, mais bon, il y a pas de chance que ça arrive. Et puis j'y pense, ça reste dans le texte, ça reste dans l'idée. Je dis, bon, bah, je tente le coup, quoi. Je l'appelle, je la connais pas, je l'appelle. Je dis voilà, j'ai eu cette idée-là, vous rentrez sur scène, vous m'embrassez, impérial, et puis vous repartez sans un mot, rien, blanc. Et puis elle rit, elle me fait d'accord. D'accord, c'est-à-dire ben d'accord, ok, oui, c'est marrant, faisons-le. Et j'ai complètement halluciné, quoi. Et après, on s'est vu, je lui ai donné un peu plus de détails, elle a joué le jeu à fond, elle est venue à Cannes en cachette. Wow. Elle s'est préparée en cachette, juste pour vraiment. Personne ne savait qu'elle était là. Elle n'était pas venue depuis un moment, en plus, je crois, à Cannes. Et elle a fait cette apparition, c'est, voilà, on s'est embrassé, elle est ressortie. Et c'est une actrice que j'adore, évidemment. Et ça a été, ouais, ça a été un moment assez dingue. Et puis ça m'a fait comprendre plein de choses sur cette femme, en fait.
Pourquoi ?
Et, bah,
qu'elle est pas.
De l'audace, oui. De l'humour. Mais en restant dans l'élégance, s'amuser avec des codes sans les détruire, toute cette intelligence qu'elle a, sa curiosité.
Et t'as peur que ça fasse un... Parce que des fois, quand tu vois les cérémonies, justement, César, Oscar, etc., des fois, t'as des trucs qui sont tentés où ça fait un peu un bide.
Oui, mais ça, c'est le risque. Faut pas aller sur ce terrain-là si on a trop peur du bide, quoi.
Mais comment tu gères un bide? Tu te dis quoi si ça
bide? Ça fait chier, un bide. C'est toujours chiant, mais c'est comme ça.
Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est toujours chiant, mais c'est digeste. Alors que pour plein de gens, c'est toujours chiant et c'est indigeste.
Oui, c'est plus ou moins digeste selon la taille du bide, quand même. C'est quand même proportionnel à la taille du bide.
Est-ce que tu dis ça, t'as des bides qui ont été plus durs à digérer?
Bah oui, il y a des bides plus ou moins... Non, moi, ce que j'aime pas, c'est quand le bide me paraît injuste. Là, je lui dis non.
Tu dis c'est vraiment drôle pour vous, vous avez pas rigolé.
Non, franchement... Ce qui est hyper, c'est hyper prétentieux. Non, ça, franchement, c'est drôle. Vous êtes vraiment des nazes, quoi. Non, ce qui m'agace, c'est quand les arguments sont pas au bon endroit. Quand la critique, pour moi, parle pas des vraies choses, quoi. Ça m'agace, quoi. Quand on juge pas la vanne sur sa qualité de vanne.
Mais quand c'est quoi, plus une question morale, éthique ou...
Oui, voilà, c'est ça, ouais.
Yes,
ouais.
Okay. Et tu te prépares comment au niveau de la voix dans la comédie française ? Enfin, je trouve ça impressionnant parce que pendant quasiment, toi, tu parles peut-être une heure et demie, j'en sais rien au total.
Dans Cyrano ? Ah, je parle plus que ça, je crois.
Ouais ?
Ah ouais, je pense. Bah, le spectacle dure 2h45, je pense que... Ah oui, tu veux dire, moi, en tout cas, en temps de parole, oui. En temps de plateau, j'y suis tout le temps, mais en temps de parole, ouais, peut-être que c'est une heure et demie.
En tout cas, peu importe si c'est une heure et demie, deux heures, c'est déjà énorme. Ouais. Surtout que c'est pas, tu parles pas avec une voix comme là, ouais. Tu la portes.
Ouais.
Tu fais des exercices juste avant de monter sur scène pour.
Ouais, j'ai deux trois.
Tu
ouais,
peux en faire avec toi pour apprendre.
En plus, c'est toujours les exercices qui m'ont gonflé quand j'étais élève comédien.
Par exemple, là demain, j'ai une conférence et j'ai envie de porter plus ma voix. Qu'est-ce que je peux faire comme exercice?
Ah, pour porter ta voix.
Ouais, tu pensais à quoi toi?
Ben moi déjà je sais que ça vient pas de là et qu'il faut surtout pas que ça vienne de là.
Donc pas de la gorge.
Ça vient de là. Quand tu contractes tes abdos spontanément, tu parles plus fort, tu vois. Donc le soutien il vient de là.
Il faut donc les contracter, ça monte ta voix.
C'est un mélange de soutien ici, abdominal, diaphragme et de résonance.
Okay.
Plus t'es comme les Canadiens par exemple, ils chantent, les Québécois chantent mieux que les Français par exemple parce qu'ils sont plus c'est plus nasal. Ils sont comme ça parce qu'ils parlent un français un peu comme ça. Ils ont des résonateurs plus d'Américains, donc ils ont des voix qui sont très puissantes parce qu'elles...
C'est pour ça que les Américains parlent plus fort.
Oui, trop fort. Dans les restaurants.
Ah ouais, c'est dingue.
C'est des voix qui sont beaucoup plus nasillardes, qui résonnent beaucoup là.
Mais du coup, là, quand tu me le dis, je le comprends intellectuellement, mais comment je fais pour parler plus en haut ?
Ben, faut le visualiser intellectuellement aussi. Faut visualiser que ta résonance, la résonance de ta voix, elle n'est pas là.
Okay.
La résonance de ta voix, elle est là, et sa force, elle est là. Mais qu'ici, il n'y a que des trucs pour se faire mal, pour se blesser, pour s'érailler la voix, tout ici.
Ouais.
Donc, c'est résonance et soutien, c'est ça.
Mais par exemple, tu ne fais pas comme un chanteur dévocalise
J'ai quelques trucs, ouais.
Ça ressemble à quoi?
Mais non, je ne peux pas le faire, il me faut un piano. Apportez-moi le piano. Non, j'ai
quelques
trucs.
Je le fais avec toi, moi je suis autant challengé.
Mais non... Non, c'est horrible. Non, c'est horrible. En plus, je trouve ça ringardos, les acteurs que tu vois se chauffer et tout. Et tout. Mais même moi, des trucs comme ça. C'est vraiment horrible. Mais
Et tu m'en donnes juste une.
Non, moi, je fais un truc pour les lèvres.
Ok.
Parce que je suis assez lipu, comme on dit. Donc, il faut que ça se détende, il faut que ce soit bien souple. Donc, ouais. Je fais des trucs comme ça. Et tu peux rajouter des sons. Des trucs comme ça. Mais
il faut varier, en fait.
Faut varier. Je fais un peu ça avant. Mais pas beaucoup.
Tu veux garder un petit peu.
Voilà. Mais enfin, Cyrano, je fais plus que d'habitude quand même.
Ah ouais.
Ouais. Il y a certains rôles, j'ai pas besoin de le faire. Là, j'ai besoin.
Ce qui est dingue, c'est que le niveau d'articulation que ça demande.
Oui.
Et tu chauffes un peu la mâchoire.
Oui, un peu. Ben ça chauffe pas mal. Et puis je me mets à peu près 20 minutes sur le plateau avant. Et j'ai quelques grands rendez-vous, grands passages que je fais sur le plateau avant le début du spectacle.
Et la posture, comment je vais me tenir, ça va jouer ou pas sur le volume de ma voix?
Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, ça va jouer. Ouais.
Et toi, j'avais déjà entendu des trucs, je sais pas si ça fonctionne, de visualiser, de parler à quelqu'un de plus loin, ou par exemple, j'en sais rien, les balcons, est-ce que tu...
Bah, en tout cas, c'est vrai que quand on est sur le plateau, on a quand même une conscience de l'espace global qu'il faut prendre en charge, quoi. Donc forcément, le niveau, il va se moduler en fonction de ça, quoi. Donc oui, il y a une conscience qu'il faut que ça aille au fond, que la voix parte au fond, et en même temps, faut pas tomber dans une espèce de jeu trop théâtral, dans une déclamation. C'est un équilibre. C'est un équilibre entre, en même temps, une théâtralité suffisamment large pour atteindre tout le monde dans la salle, même au troisième balcon, même au fond, et en même temps, un naturalisme qui rend les choses crédibles et accessibles.
Comment tu fais? Parce que je me posais la question, moi, quand je vais faire, par exemple, une conférence et que je finis à 22h, j'arrive pas à dormir.
Ouais.
Je suis plein d'adrénaline.
Ouais.
Là, je pense qu'on a terminé. En tout cas, le public, on est sorti, je sais pas, il était quelle heure? 22h30, quelque chose comme ça. Toi, le temps, en plus de terminer, comment tu fais pour arriver à dormir derrière?
Je pense que je m'endors vers 3h30.
Putain.
J'arrive à peu près à m'endormir vers 3h30 du mat. Ouais, je mets du temps.
Mais donc tu t'allonges et t'attends, tu
non,
prends une douche.
Non, je regarde des trucs, je regarde un film, je bouquine.
Et ça joue pas, parce que moi si je fais ça, si je m'endors à 3h du matin, le lendemain je suis fatigué.
Oui, même si tu te lèves tard. Ouais.
Oui. Et t'as ça ou c'est que ton corps il s'habitue au bout d'un moment?
Non, ça, je me cale un peu différemment, quoi, presque comme un travailleur de nuit en fait. Quoi. Ouais. Je me décale un peu, mais ouais, c'est des périodes fatigantes. Et puis le spectacle, il est physique, il est très émotionnel aussi.
Ouais.
Donc tu convoques des émotions quand même qui sont aussi un peu fatigantes, quoi.
Est-ce qu'on fait comment par exemple pour convoquer une émotion?
Faut se rendre. Alors moi, je vais pas trop chercher dans tout ce qui est souvenirs personnels et tout. Je suis pas très méthode acting.
Okay.
Parce que si je pense à des choses trop personnelles pour provoquer de l'émotion, j'ai une espèce de barrage assez pudique qui se met en place et l'émotion, elle va se bloquer. C'est pas une émotion que je vais avoir envie de partager. C'est quelque chose que je veux garder. J'arrive pas du tout à travailler là-dessus.
Okay.
Donc en fait, je vais plus essayer de me rendre disponible à l'émotion de la situation et à l'émotion que traverse le personnage.
Comme si tu la vivais maintenant, en fait.
Comme si je la vivais maintenant et créer une empathie extrême, plus que de l'empathie, vraiment une identification.
Je rentre dans le personnage, là je suis en train de vivre cette séparation.
Voilà, je prends vraiment la mesure de l'enjeu et de l'émotion que ça provoque chez lui par rapport à l'enjeu de la pièce, pas par rapport à ma vie personnelle, pas par rapport à un deuil, pas par rapport à une rupture ou une déception, par rapport à vraiment ce qui est en train de se jouer. Et là l'émotion vient. Parce que justement, parce qu'elle...
C'est dans l'empathie. Ouais,
ouais, et que ça vient pas, c'est pas quelque chose d'intime que je partage. C'est aussi forcément quelque chose d'intime que je partage,
oui,
puisque
sûr.
C'est une émotion réelle. Mais en tout cas, elle est provoquée par quelque chose qui est lié à la fiction et pas à ma vie.
C'est marrant, ça fait plusieurs fois que tu t'en parles de ce truc-là, de cette scission un peu vie perso, vie pro, à la fois sur les messages que tu te relais sur les one-man show, là pour rentrer dans les émotions, le côté aussi des sujets, en fait.
Ouais.
Ça vient de quoi, en fait? Pourquoi c'est important pour toi de faire cette scission
Je sais pas, déjà ça se fait naturellement, c'est pas vraiment...
Alors peut-être formuler autrement, c'est quoi le risque dans ta tête d'ouvrir trop le plan en perso en fait?
Ben, encore une fois, c'est par rapport à ma fonction. Ma fonction dans la société, si j'en ai une, c'est d'être acteur, de raconter des histoires, de rendre des personnages crédibles, de provoquer des émotions. Tout ce qui ne va pas concourir à ça, je m'en méfie quoi. Tout ce qui va brouiller, tout ce qui va empêcher l'efficacité de cette fonction-là, pour moi, je m'en méfie. Donc tout ce qui est parler de soi sur le plan personnel, sur les convictions politiques, intimes, pour moi, je brouille les choses. Et moi, en tant que spectateur...
C'est dans le sens, juste pour être sûr de reformuler, ouais. Tu me dis, c'est dans le sens que du coup, je verrais plus le personnage, mais je verrais Laurent, l'activiste.
Tu me verras plus moi si je te parle plus de moi, c'est sûr. Mais en tout cas, à partir du moment où tu révèles des choses, tu prends le risque de créer une distance entre ton travail et les spectateurs. Et moi, j'ai pas envie de ça.
Tu veux qu'on oublie Laurent, en fait?
Ouais,
j'aimerais
une espèce de... Alors c'est contradictoire parce que là, on est en train de parler longtemps et ouais. Je parle de moi, mais...
C'est difficile ou pas?
Non, ça va, ça me pose pas de problème. J'adore parler de moi. Mais j'aime bien rester dans ma fonction, quoi. Après, et si j'ai des choses à dire intimes, voilà, je l'ai dit dans mon one man. J'ai un one man show qui est très intime, j'ai un premier film qui est très intime. Ce que j'ai fait sur France Inter, voilà, avec Zabou, à votre écoute, coûte que coûte, qui est accessible sur le site d'Inter encore, il y a tous les épisodes. Ça a été une manière pour moi de m'exprimer politiquement.
Via un personnage.
Via une écriture. Alors ça passe beaucoup par l'écriture, forcément.
T'aimerais par exemple faire un format, alors je sais pas si c'était écrit, mais il y a un média qui s'appelle Legend, et ils ont fait une interview avec un gars, je sais plus comment il s'appelle là, qui se présente en tant que coach de charisme. Ouais. Et toutes les interviews sont des interviews normales, c'est-à-dire avec des invités qui sont eux-mêmes. Et donc je lance l'interview, et moi je suis pas prêt, enfin je me dis c'est un autre invité, j'étais étonné, coach de charisme. Et donc en fait il est clairement dans un personnage, dans toutes ses vidéos. Je sais pas à quel point c'était improvisé. Est-ce que t'aimerais faire un podcast, mais en mode tu n'es pas Laurent Lafitte?
C'est ce que j'ai fait sur Inter. À votre écoute, coûte que coûte, j'étais Philippe de Beaulieu, médecin, très 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 à droite, très vieille France.
Ça t'aime bien ça?
J'adore, parce que ça me permet de pouvoir me défouler sur tout ce qui m'horripile, tout ce qui m'angoisse, tout ce sur quoi justement je ne me sens pas légitime de prendre la parole en mon nom propre. Là je me crée un espace, j'ai cette chance en tant qu'artiste de pouvoir me créer un espace où je m'exprime sur une chaîne du service public avec des millions d'auditeurs et avec une actrice que j'adore qui est Zabou Breitman et qui écrivait avec moi les sketchs. Donc ça c'est génial, mais je reste dans ma fonction.
Ouais, je comprends.
Et puis en plus, et ce qui me fait marrer, c'est qu'en plus là, c'est les salauds qui ont la parole. Parce que nous, on faisait vraiment un couple d'affreux, quoi. Psychothérapeute, elle, et moi, médecin, on était vraiment horrible, quoi. Et ça me fait marrer.
Ouais. Dans ta carrière, c'est quoi un des moments qui t'a le plus ému ?
Ému, j'aime pas trop les fins de tournage. Ça me fout un peu le cafard. Ah ouais. Quand ça se passe très bien et que ça se termine, c'est j'ai toujours un petit blues de plusieurs jours. Après, les émotions de carrière, on va dire, encore une fois, c'est souvent des rencontres avec des acteurs et des actrices que j'ai admirés plus jeunes. Et j'ai un souvenir très ému de ma rencontre avec Fanny Ardant dans le film Les Beaux Jours.
C'est quoi qui crée l'émotion en ce moment?
Bah, c'est une émotion assez enfantine, en fait. C'est juste...
C'est le petit garçon qui a rêvé. Et
bah
c'est
oui,
c'est
l'ado qui a vu la femme d'à côté, qui a découvert Truffaut avec un film, et puis qui a pris de tourner avec Fanny Ardant. Je jouais son amant. C'était un très, très, très beau film de Marion Vernoux. Alors, je peux pas rester là-dedans, sinon je peux pas travailler.
Bien sûr.
Mais il y a toujours ce petit truc au début, juste à la première rencontre, où cette petite conscience de ce qui est en train de se passer.
Et c'est dans quel sens? C'est dans le sens, tu vois, tu l'as rêvé, c'est fait, c'est quoi en fait le dialogue intérieur?
Oui, c'est surtout quand la rencontre est à la hauteur de ce dont on a pu rêver autour de quelqu'un.
Ouais, ce qui n'est pas toujours le cas.
Non, c'est pas toujours le cas, mais ça, c'est assez magique, quoi. Et puis ce que j'adore, c'est le lien. Et ça, c'est un lien qui n'existe que dans le cinéma, forcément. C'est le lien qu'il y a entre des gens qui ont fait un film ensemble, en fait.
C'est quoi ?
Ben, c'est un lien très particulier. Et c'est un lien qui est là pour toujours. Même si ça se passe pas très bien, même si c'est un lien très particulier, d'avoir pendant 8, 10, 12 semaines, partagé un projet artistique, partagé des émotions... échanger des émotions, s'être rendu disponible à des émotions, d'une certaine manière fragilisé ensemble pour donner corps à une histoire, se rendre disponible à la vision d'un ou d'une metteur en scène. Toute cette disponibilité qu'on donne d'un coup et qu'on crée pour un film, qu'on vit ensemble, avec un côté parfois colo quand on tourne en province ou à l'étranger et tout, ça crée un lien entre des êtres que je trouve extraordinaire. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui offrent un lien comme
si
ça. Pardon ?
C'est un lien si fort.
Ouais.
C'est indirectement lié, mais ça m'intéresse. Plus je rencontre des gens que j'apprécie, avec qui je me sens bien, plus ça me crée une forme de stress parfois de ne pas assez maintenir le lien, de ne pas... souhaiter un anniversaire ou prendre le lien assez souvent, enfin ouais. Rester en lien assez souvent. T'as rencontré plein d'acteurs qui t'as vécu des belles aventures, des réalisateurs, des techniciens, enfin, plein de personnes différentes, et j'imagine aussi des journalistes et plein de gens différents.
Ouais.
Ça fait beaucoup de monde. T'as pas plus de journées que t'en avais avant. Comment tu gères en fait ce... Je parle pas de relations que tu maintiendrais juste par stratégie. Je parle vraiment de quelqu'un que t'apprécies.
Ah oui, non, en plus moi je suis pas du tout.
Mais du coup ça fait quand même beaucoup de personnes. Comment
oui,
tu...
mais c'est ça aussi qui est beau dans les films, c'est que c'est un peu comme en colo, c'est qu'à la fin on dit on se rappelle, et puis non, c'est pas.
on
se rappellera pas. Enfin pas toujours.
Ouais.
Mais c'est souvent comme ça. Mais c'est pas grave.
Quand tu lâches prise, tu te dis pas, tiens, je lui ai pas parlé depuis 5 ans.
Bah aussi ça peut arriver, mais dans ce cas-là j'appelle. Mais en tout cas c'est pas c'est ça aussi qui est beau dans un tournage, c'est qu'on sait que c'est un temps a priori, même s'il peut en découler des amitiés au long cours. Mais voilà, c'est une espèce de bulle et ça je trouve ça très beau comme lien.
Si dans un tournage, que ça peut s'appliquer à beaucoup de gens, entretien d'embauche, etc.,
ouais.
Tu sens que t'es pas dedans. C'est-à-dire que c'est pas forcément horrible,
ouais.
Mais tu commences à avoir l'autocritique de là, Laurent, tu peux faire mieux. Tu gères comment pour arriver à l'évacuer? Est-ce que, par exemple, tu vois, je voyais, comment il s'appelle en tennis
McEnroe, le mec qui a pas regardé un match depuis 88.
non,
René Lacoste.
Djokovic, merci. Heureusement qu'ils sont là. Tu vois des matchs où il est pas dedans,
ouais.
Et il va dans les vestiaires, il revient, c'est un autre homme. Et tu te dis qu'est-ce qu'il a foutu dans les vestiaires, tu vois. Il y a eu un avant et un après. Il arrive à se remettre dedans, quoi.
Ouais.
Toi, t'as des techniques, des trucs qui te servent pour quand tu te sens que t'es moins dedans, pour arriver à te remettre dedans.
Bah après, moi je travaille pour des metteurs en scène, hein. Donc c'est eux qui sont censés me diriger et c'est dans leur regard que je suis censé savoir si ça va ou pas.
Et s'il te dit par exemple ça va pas, et que tu réessayes une deuxième fois et ça va pas,
Bah, s'il me dit que ça va pas, on va pas aller loin, quoi. Faut qu'il me dise pourquoi ça va pas, qu'est-ce que j'arrive pas à comprendre, qu'est-ce que j'arrive pas à faire.
T'as pas l'autocritique du type putain, fais chier, j'y arrive pas.
Je peux sentir qu'on n'est pas allé au bout d'une scène ou que je suis pas allé au bout de quelque chose. Et du coup, je peux réclamer une prise supplémentaire.
Mais t'as peu ce dialogue intérieur.
Ça passe beaucoup par le lâcher prise, le jeu, quand même. Donc c'est difficile de. Si, j'aime bien ne pas avoir trop conscience de ce que je fais au moment où je le fais, quand même. J'aime bien que ça m'échappe. C'est là où ça me paraît intéressant. Et après, c'est le metteur en scène.
Après, tu attends qu'il te dise.
Ouais, voilà, si c'est ça ou pas. Mais moi, j'aime bien travailler sur le lâcher prise, quoi.
Et donc, quand tu fais la deuxième ou troisième prise, il n'y a pas une émotion de tension de j'espère que la quatrième va marcher.
Non. Non, il n'y a pas de tension, il faut pas qu'il y en ait.
Ouais, mais c'est ça qui est fou.
Ouais. Mais ça dépend beaucoup du metteur en scène, ça. C'est lui qui doit créer un climat de confiance.
Mais quand t'as une scène avec quelqu'un qui potentiellement tu l'as admiré, ça t'a intimidé, t'as besoin de faire quelque chose pour arriver à rentrer dans ce lâcher-prise.
Non, parce qu'à partir du moment où on joue, c'est plus, y a plus d'admiration, y a plus, enfin, y a un respect, oui. mais c'est, ça devient,
c'est pas,
un, non, ça devient un ou une partenaire de jeu et y a plus du tout, j'ai pas du tout je suis pas du tout impressionné quand je joue avec des acteurs ou
t'es
des actrices.
T'es dans ton élément et t'oublies le truc.
Que je connais depuis longtemps en tant que spectateur. Ouais, ouais.
Trop bien. Des petites questions, tu peux en piocher trois et tu les retourneras une à une.
Ah,
après.
D'accord.
Donc si la question te parle pas, t'es pas obligé d'y répondre d'ailleurs au passage.
J'ai pris les trois premières.
Sache qu'on avait mis les trois plus durs en haut.
Les trois relous.
Donc vas-y, tu retournes une.
D'accord. Avez-vous une phobie ou une peur irrationnelle? J'ai le vertige.
Ok.
Ouais, j'ai le vertige et je suis un peu claustro.
Donc tu vas pas faire de rôle type Mission Impossible, quoi?
Non, mais je monte un peu haut dans Cyrano.
C'est
je
vrai.
Je sais pas si tu te souviens.
Au début déjà. Et plus à l'échelle, enfin là.
Puis avec la lune aussi.
Ah oui, putain, la lune, je me suis
quand
dit,
suis
c'est, elle, apparaît, elle est pas épaisse, non?
Non, elle est pas épaisse et je suis pas harnaché. Donc.
D'ailleurs, je me disais, ouais. Parce que c'est pas juste monter dessus, c'est que t'as un dialogue en même temps.
Ouais.
Et je me visualisais à ta place en train d'avoir du mal avec mon texte, que je suis stressé de tomber.
Bah, c'était ça en répétition, ouais. Ouais.
Donc,
ouais.
T'as bien trouvé la bonne position.
J'ai bien trouvé la bonne position.
Non seulement elle est en hauteur, mais elle bouge.
Bah ouais, elle monte, ouais.
Et tu le sens ou pas d'ailleurs qu'elle.
Bien sûr, ah bah oui, je sens. Ouais. Ouais, je me sens monter, ouais. Ouais, le vertige, ouais. Et là, alors, je suis un peu claustro. Je l'étais un petit peu, mais pas tant que ça. Et ça s'est accentué à cause d'un tournage, d'ailleurs, sur Au revoir là-haut, le film d'Albert Dupontel. Je meurs enseveli sous des tonnes de
sable.
Ah,
la flemme.
Alors, c'était pas du sable, parce que ça aurait été trop lourd. J'aurais vraiment été écrasé. C'était des miettes de liège. Mais il y en avait... Beaucoup,
ouais,
beaucoup.
T'as quand même le sentiment d'être...
Ouais, t'es vraiment complètement enseveli.
La tête aussi, ouais.
Et j'étais sur une plaque avec des vérins hydrauliques. Et non, pas hydraulique d'ailleurs, avec des vérins, bref. Et...
Le mec a besoin de préciser les trucs techniques.
Le mec a imaginé tout un système. Bon, en tout cas, qui était sur vérin, et j'étais enseveli sous cette tonne de liège, et je devais tenir quelques secondes en apnée totale. J'en avais partout. Et après, la plateforme se levait et me sortait du tas de liège.
Ah, mais ces quelques secondes, ils sont longs, quoi.
Surtout quand tu sens que la plaque fait ça et ne monte pas.
À la flemme.
Donc, je comprends que le système ne marche pas. Je suis enseveli, mais totalement enseveli. Je peux même pas bouger une main. Je suis totalement...
Tu peux pas sortir toi-même.
C'est de l'eau solide.
Tu peux pas sortir par
toi-même.
Non, toi-même.
Impossible. Trop lourd. Il y a trop de masse au-dessus. Je ne peux rien faire.
Ah non.
Et je sens et j'entends un peu étouffé des pieds. Mais quoi, ça marche pas, mais appuie, mais
alors,
j'entends des mouvements de panique au-dessus et je suis totalement pétrifié dans la masse, quoi. Je ne peux rien faire en apnée,
ouais.
Et là ça creuse et ils m'ont dégagé la tête pour que je respire et après ils m'ont sorti à la main, mais je me suis fait une peur, une angoisse atroce. Et évidemment c'était la première prise, il fallait que j'en refasse après. J'étais un bon soldat.
En soi c'était un cadeau que ça, parce que tu sais, c'est un sujet qui m'intéresse, le sujet des traumas ou des phobies. Le fait qu'il y ait eu d'autres prises, au minimum, ça t'a permis potentiellement
de remonter sur le cheval, mais
d'éviter de l'accentuer.
Suite.
Mais c'était
ouais,
dur. Non, mais c'est dur. Parce que, ce que je veux dire, c'est que si t'avais pas fait ça, t'aurais peut-être une beaucoup plus grosse phobie aujourd'hui.
Ah, si j'avais dit stop, on arrête. Ouais, c'est sûr. Mais ça a pas arrangé, quoi. Mais bon, le film est bien. Ça va, ça valait le coup.
Ah, j'ai vu une vidéo d'un mec qui nage sous la glace.
Ah ouais.
Je sais pas si tu l'as vu.
Non.
Et il nage sous la glace et en fait, il est censé passer d'un point A à un point B, donc il y a deux trous. Tout le reste, c'est de la glace. Et je sais pas ce qui se passe exactement, mais à un moment donné, en fait, il est perdu.
Il est en apnée, évidemment.
Il est en apnée. Et donc, tu vois tous les gens au-dessus qui sont en mode, ils se rendent compte qu'il est perdu, et ils nagent comme ça, et ils essayent de casser la glace.
Ils n'y arrivent pas.
Ah, putain, c'est horrible. Et donc, là, c'est angoissant juste à voir.
C'est horrible.
Oui,
ils
sont
là, les spéléos et tout, qui rentrent dans des boyaux. Ah, non, ils peuvent même pas se retourner dedans, ils savent même pas où ils vont.
Je peux pas faire ça, moi.
Non, c'est atroce. Qu'est-ce qui vous fait rire à tous les coups? À tous les coups.
Alors, pas à tous les coups.
La mauvaise foi.
La mauvaise foi.
Ouais, la mauvaise foi flagrante. Ouais, les flagrants délits de mauvaise foi. Non, c'est pas possible. Ça c'est drôle, ouais. Ouais, la mauvaise foi, ça marche bien. De quoi êtes-vous le plus fier? Fier.
Ça peut être petit, hein. Et fier, après, le mot, il a plusieurs sens, mais ouais. En tout cas, quelque chose dont, si c'était le dernier jour de ta vie, tu repenserais en mode. Je suis content d'avoir vécu ça, quoi.
C'est pas pareil.
Non, c'est pas pareil. Ouais. Mais je te fais des variations.
Je sais pas. Fier.
Mais c'est quoi que tu mets derrière le mot fierté, toi?
Bah, fierté, c'est un peu lié à l'orgueil, quand même.
Ouais,
je
ouais.
Pour moi.
Ok, c'est pour ça que je voulais.
Alors que pour moi, j'ai des sentiments d'accomplissement, de réussite. Je me dis, voilà, ça ressemble à ce que je voulais faire, ou ça a été vraiment compris comme je voulais le faire.
Non, mais c'est pas la fierté dans le sens hubris.
Ouais.
C'est dans le sens accomplissement.
D'accord, alors ça. Alors, c'est à chaque fois. Comme ça se décale à chaque fois, c'est jamais la
c'est
même
la
chose.
C'est la dernière.
J'aime bien quand j'ai fait. J'aime bien quand je suis cohérent, quoi. Quand j'ai pas l'impression de m'être fourvoyé ou de pas être allé au bout, de pas avoir assez travaillé ou d'avoir. Voilà, j'aime bien quand je me dis, bah, franchement, advienne ce que pourra, mais là, j'ai vraiment fait le max.
T'arrives à revoir un film de toi ou pas?
Non, ça m'arrive jamais. Déjà, de les voir une fois, c'est compliqué.
Ouais.
Je le fais parce que.
T'es l'avant-première, de toute façon.
Ouais, voilà. Mais je pourrais ne pas voir le film à l'avant-première, faire juste la présentation. Mais...
Oui, ça.
Non, je les regarde quand même, par respect pour le travail de toute l'équipe. Je suis quand même curieux.
Mais t'es critique ou
pas? Ouais, je suis très, très critique. Ouais, très. Très, ouais, beaucoup. Ouais.
Et c'est une critique qui est constructive, c'est-à-dire que tu prends des trucs pour la prochaine fois, ou en fait, c'est juste parce qu'on est dur avec nous-mêmes quand on se regarde, quoi?
Ouais, c'est sûr que faut faire la part des choses. Ouais. C'est vrai que n'importe qui, même quand on se filme avec son portable, il suffit de voir les gens comment depuis qu'on peut se filmer, comment les gens font des phases et font des têtes. Tu fais, mais en fait, oui, donc en fait, tout le monde devient un contrôle freak de sa propre image et ça raconte la difficulté qu'on a à se regarder tel qu'on est, quoi.
Mais toi, quand tu te regardes, c'est plus le côté à quoi tu ressembles ou c'est la technique de l'acting?
C'est pas forcément la technique de l'acting, c'est. Enfin, à quoi je ressemble, si parfois il y a un peu de coquetterie, je peux me dire oh là là, là j'ai vraiment une sale gueule. Mais au cinéma, je m'en fous. Alors tu peux me faire la gueule la plus atroce du monde.
C'est parti du personnage.
Tu peux me dire pas de coiffure, pas de maquillage. Si c'est un désir du metteur en scène, j'y vais. Au contraire.
Genre chauve.
Ah ouais, mais aucun problème. Aucun problème. Au cinéma, je peux avoir toutes les têtes. Je peux être monstrueux. prendre 10 kilos. Ouais, j'ai aucun problème pour ça. En revanche, je suis hyper coquet sur toutes les conneries, genre là ce qu'on fait ou les photos ou la presse. Là, je sais pas pourquoi, j'ai un truc qui remonte un peu de un peu contrôle fric.
Mais quelle différence que sur Google Images, t'as pas le filtre personnage ou interview, quoi.
Bah ouais, mais je sais pas,
c'est pour qu'au minimum les gens puissent dire en vrai, il ressemble à ça.
Voilà, c'est ça. Vous vous rendez compte un peu la performance de l'acteur. C'est un truc de disponibilité, quoi.
Voilà, je comprends. Voilà.
Mais j'aime pas regarder parce que parfois je vois la scène et je me dis ah merde, je pensais pas du tout faire ça et je suis surpris par ce qui reste de la scène. Et puis après, parfois, j'ai peur aussi d'être déçu par le film.
Ça, c'est dur en tant qu'acteur parce que tu n'as pas le contrôle
sur
le...
Ouais, c'est super difficile. Ouais.
Ça t'est déjà arrivé de te dire, au moment du tournage, putain, j'ai vraiment l'impression que c'est génial, et voir le film et d'être déçu?
Alors, d'être génial, non, mais en tout cas, de m'être dit, là, on est vraiment allé au bout de la scène et je pense qu'elle va marcher. Et après, de voir la scène et de la trouver beaucoup moins forte que ce que j'avais imaginé, ouais. À cause du montage ou de tout ce qui a été fait après. Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Ouais.
D'ailleurs, toi, maintenant que t'es passé sur aussi la casquette réalisateur, à chaque fois, je me pose la question. Par exemple, je voyais Napoléon, là, les retours,
ouais,
qui étaient quand même très durs sur le film Napoléon. Et beaucoup de gens étaient déçus. Les gens, ils disent, on n'aurait pas dû appeler ça Napoléon, mais j'ai perdu le nom de sa femme, Joséphine.
Joséphine.
À chaque fois, je me dis, mais tiens, comment ça se fait que des trucs qui semblent évidents pour tous les spectateurs n'ont pas réussi à être corrigés avant les versions finales? C'est parce qu'en fait, c'est trop tard.
Oui, enfin, ça dépend de ce qu'a voulu Ridley Scott. Si le film s'appelle Napoléon, c'est que pour lui, c'est Napoléon.
En fait, peut-être question, je vais la formuler en plusieurs étapes. étape 1, quand ça a l'air d'être assez unanime que les gens étaient déçus, pas qu'en France, du coup, je me dis, à ton avis, est-ce qu'il a eu des retours comme ça avant la sortie? Et s'il les a eus, c'est en mode... Il est habitué à à s'écouter et dire en fait, de toute façon, on m'a déjà dit ça dans ouais. Gladiateur et en fait, on s'en ouais. fout. Ou est-ce qu'on lui fait pas de retour? Est-ce qu'on n'ose pas? J'arrive pas à me visualiser ce qui.
Mais c'est intéressant ce que tu pointes parce que en tant que réalisateur, ce que j'ai découvert sur mon premier film, c'est que déjà, on te pose des questions, surtout en France d'ailleurs. Parce que je crois que les Américains et les Anglais, chaque chef de poste est un peu plus responsable. Et je crois qu'on questionne un peu moins sur tout le réalisateur, puisqu'il y en a quand même pas le final cut sur leur film. Mais en France, on demande... Tout doit être validé par le réalisateur en permanence. Donc tu passes tes journées à avoir des questions sur la déco, sur les costumes, sur tout, tout le temps en permanence. Moi j'adore ça, je suis contre le fric et tout, ça me va très bien. Mais du coup, tu es obligé d'être sûr de toi, de trancher et d'avancer bien en tête, en étant quand même disponible au retour qu'on peut te faire de ton chef-op ou de ton producteur qui dit « Ah, t'es sûr, ça, machin et tout. » Donc, il faut en même temps écouter, mais ils peuvent se planter autant que toi. Donc, il faut garder ta ligne. Et c'est un équilibre qui est difficile. Moi, ma parano en tant que réal, c'est qu'à chaque process, écriture validée, tournage terminé, montage terminé, première version validée, deuxième version validée, mixage, étalonnage, tout est validé, le film existe. Il y a plein de phases de validation qui sont validées par tous les gens qui travaillent avec toi. Et moi, ma parano est, si je me dis... De me dire tout le temps, je dis, mais attends, il y a plein de films, comme tout le monde, il y a des films que je trouve nazes, et tous ces films.
Ils ont tous, nazes, été, validés
ils ont tous été validés par plein de gens à plein de moments. Donc, alors, première angoisse, est-ce que mon film est aussi naze que certains films que je trouve nazes? Ou, et deuxième angoisse, qu'est-ce qu'on fait de. Quelle est la valeur de la validation unanime, quoi? Donc, t'es obligé de garder ton cap, en fait, en tant que réal. T'es obligé d'aller au bout de ton idée. Après, moi, j'ai les gens avec qui je bosse qui m'ont fait éviter des erreurs, que j'ai écoutées, que c'est un équilibre. C'est un équilibre.
Et je me rends pas compte, un film, parce que je le vois déjà avec une vidéo qui en dure 30 minutes,
ouais.
Ça fait des jours que t'as bossé dessus. Moi, j'arrive souvent pas à avoir une forme de regard neuf. Enfin, c'est compliqué de le regarder comme le spectateur va le regarder, ouais, parce que je l'ai entendu plein ouais. de fois. Un film, vous le voyez combien de fois avant qu'il sorte?
Quand tu es réalisateur?
Ouais, quand t'es réalisateur.
Je sais pas, moi je pense que mon film, j'ai dû le voir entre les versions de montage différentes, j'ai dû le voir 25 fois.
25
fois.
Je
sais pas.
Et t'as des manières d'essayer de te dire comment le spectateur le vit? Parce que même les blagues, ouais. par exemple, tout est différent quand t'as déjà entendu.
C'est difficile sur l'humour. Parce qu'à partir du moment où on sait ce qui arrive, forcément le rire il se déclenche plus quoi. Donc il faut trouver le bon timing, le bon tempo au montage, surtout de la comédie pour que ça reste efficace. Alors que soi-même on connaît déjà le texte, on sait ce qui va arriver. C'est le danger du coup d'être un peu trop cut. À chaque fois on se dit ça va pas assez vite, ça va pas assez vite. Et moi je me souviens que je trouvais que mon film n'allait pas assez vite. Je continue à trouver qu'il va pas assez vite. Je pourrais retourner au montage demain. Mais je me souviens aussi que dans les discussions avec mon monteur et mon producteur, il avait dit, mais attends, fais gaffe, toi tu connais le texte, donc pour toi ça va pas assez vite, mais pour quelqu'un qui découvre telle ou telle réplique,
ouais,
il faut la demi-seconde pour l'intégrer. Et ils avaient raison sur certains passages. Donc c'est vrai que c'est un des dangers que tu éprouves aussi en faisant tes vidéos, c'est que au bout d'un moment le regard il est de moins en moins neutre quoi.
Moi des fois je me garde des gens sous le coude pour des versions différentes. Est-ce ouais. que tu fais ça aussi, c'est-à-dire en te disant bah tiens oui. cette personne là je me la garde oui. pour la version 3,
la première version? Moi je veux que des gens super bienveillants qui vont bien me réconforter machin, et puis après quand on commence à creuser un peu plus, je veux bien montrer mon film à déjà un petit peu plus critique et je veux bien gratter comme ça. Ouais, mais au départ il faut que ce soit un peu chaleureux.
Non, ouais. C'est une bonne technique. Des petites questions rapides, ouais. Réponses rapides du coup.
Ouais.
Pour toi, quel est un mauvais conseil qui est trop souvent partagé dans le monde de l'acting, du cinéma, ou même pourquoi pas de manière générale dans la vie? Un conseil qui est beaucoup partagé et toi t'es pas d'accord?
Sois pas impatient.
T'es pas d'accord avec ça?
Non.
Donc sois impatient.
Ouais, je pense qu'il faut être impatient.
Dans quel but? Ouais.
Bah d'avoir envie et puis de créer de la frustration. Et je pense que la frustration, quand on est impatient, il y a beaucoup de frustration qui se crée. Et je
Elle
pense que c'est une énergie, ouais, c'est une énergie importante, la frustration.
Qui a influencé fortement ta vie, positivement ou négativement?
C'est très intime comme question.
Tu peux donner les initiales alors. C'est une réponse courte, donc t'es pas obligé de t'étendre.
Je suis désolé, hein, mais elle sera courte. C'est juste qu'elle met du temps à venir, mais elle sera courte. Qui a influencé ma vie positivement ou négativement? Je pense que je suis mon pire ennemi.
Alors vas-y, explique-moi.
Je pense que je suis mon pire ennemi.
C'est-à-dire ?
J'ai une tendance au sabordage parfois. Donc
là, tu m'as soit pas assez dit, soit trop dit. Vas-y.
Je peux un peu me saborder. Donc je fais attention à ça.
Ça veut dire quoi, de s'aborder ?
Me saborder, me mettre dans des situations qui ne me seront pas bénéfiques, le savoir et y aller quand même.
Alors, ça me fait... là, j'ai une question qui me vient.
Ah non, mais il fallait une réponse courte. On ne peut pas développer, du coup. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Hein.
Ouais, bien sûr.
Quand on le sait, ça va.
Dernière question. Ouais. Si tu pouvais inviter au restaurant n'importe qui, vivant ou décédé, ouais, et manger avec lui, tu mangerais avec qui ?
Hitchcock.
Ok.
Ouais.
Tu lui poserais quoi comme question ?
Plein de questions de cinéma. Et puis, Hitchcock, ce serait pas mal.
C'est clair. Trop bien. Merci, Laurent.
Merci beaucoup.
C'était
merci
dingue.
À toi. Merci.